Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Les vraies voix Sud Radio, tout l'été jusqu'à 19h, qu'il fasse beau ou qu'il ne fasse pas beau. Alors on en profite, vu qu'il fait beau avec moi ce soir, Morad Aïtabouche, bonsoir à vous.
Bonsoir Jean-Marie.
Avec, vous avez une spécialité qui correspond pas trop au temps qu'il fait en ce moment. Vous êtes le réalisateur de la série Sale Temps pour la planète, c'est diffusé sur France 5.
Et c'est ce soir sur les Pyrénées-Orientales, c'est important.
Ah, c'est très
à
important.
À 20h50.
Exactement, on va visiter Collioure par exemple, qu'est-ce que vous allez nous montrer?
Collioure, Bagnouls, évidemment Argelès-sur-Mer, en fait tous les endroits où malheureusement on a un peu construit n'importe comment à l'époque du préfet Racine et du général de Gaulle, on a construit trop près de la mer malheureusement, mais aussi je vais rappeler quand même qu'en France aussi ça peut arriver ce qui s'est passé ces derniers temps en Belgique ou
on
en
y
Allemagne
reviendra justement.
Avec évidemment des inondations monstres et c'était en 1940, il y a eu 400 morts côté espagnol et quelques dizaines côté français et ça peut se reproduire.
Un peu partout en France malheureusement, avec moi également ce soir Jean-Luc Touly, bonsoir à vous Jean-Luc.
Bonsoir.
Président du Front Républicain d'Intervention contre la Corruption. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Ça faisait très longtemps que les vraies voix ne avaient pas...
Je m'ennuyais. Et j'ai aussi, dans ma petite ville de Wissous, des inondations.
Bien sûr, ça arrive aussi. Ça arrive et c'est le risque. Alors, on va en reparler des inondations, chers amis. Je vais y revenir dans ces vraies voix Sud Radio. On est aussi avec Benjamin Glaise.
Bonjour Jean-Marie. Bonjour
journaliste Sud Radio qui a compris cette semaine, avant de rejoindre le Grand Matin Sud Radio, que la vie appartenait à ceux qui se couchaient tard. Surtout quand on fait les vraies voix.
Bah oui, ça fait du bien aussi de changer un petit peu de rythme et de se lever très très tôt.
Et de se coucher tard aussi. Chers amis, aujourd'hui, 21 juillet, c'est une fête nationale. Morad Aïtabouche, Jean-Luc Touly, quel est le pays ? Vous avez le droit de vous tromper ?
Un pays d'Amérique du Sud.
Non, c'est beaucoup plus près.
J'aurais dit ça aussi.
Oh, ben alors, non, pas du tout.
Un pays européen ?
Oui.
La Suisse.
L'Europe de l'Est, peut-être.
Vous avez entendu la timidité de Morad Aïtabouche. Non, c'est pas la Suisse, Morad. La Belgique, nos amis belges, c'est la fête nationale en Belgique. On les embrasse tous,
bonne
y compris la petite colonie belge qui travaille aussi à Sud Radio. On embrasse tous les Belges. C'est l'anniversaire de l'accession au trône du premier roi des Belges, figurez-vous. Il s'appelait Léopold Ier. Pas Léopold II, mais Léopold Ier. C'était le 21 juillet 1831, évidemment, à Bruxelles. Allez, au programme des vraies voix ce soir. Dans un instant, la première journée du pass sanitaire, l'inauguration en quelque sorte, comment ça s'est passé dans les salles de sport de plus de 50 personnes, les lieux de loisirs, les lieux de culture. On sera sur place avec les vraies voix. Les débats des vraies voix ensuite, un peu de politique. Est-ce que la droite va arriver à se mettre d'accord sur un seul candidat en 2022, avec ou sans primaire, et avec ou sans Bertrand? Tiens, justement, il n'était pas là à la réunion des autres candidats, hier soir en tout cas. On va parler, vous le disiez Morad, des inondations monstres qui ont lieu en ce moment en Chine, après avoir frappé aussi de manière dramatique la Belgique et l'Allemagne. Est-ce que le changement climatique est déjà là cet été? Et puis notre grand débat, on est en pleine quatrième vague de Covid, et en plus le ministre de la Santé nous annonce à l'instant que le pic de l'épidémie, en gros, ce sera à la fin de l'été. Bref, est-ce que le variant Delta va nous gâcher nos vacances? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio, vous nous appelez 0826 300 300. Tout de suite, direction le plus grand parc aquatique de la capitale qui vient juste d'inaugurer le pass sanitaire.
Les vraies voix Sud Radio.
Le pass sanitaire qui est devenu obligatoire dans les lieux de loisirs et de culture qui accueillent plus de 50 personnes à partir d'aujourd'hui. Ça concerne les musées, les cinémas, les théâtres, les salles de sport, les parcs aquatiques. Bonjour à vous Nathalie Molmi-Ferro.
Bonjour Jean-Marie.
Et bienvenue.
Merci de te recevoir sur votre antenne.
Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes la directrice adjointe de l'Aqua Boulevard de Paris. Alors pour ceux qui ne sont peut-être pas passés devant, c'est un immense parc aquatique. Vous avez également aussi la plus grande salle de fitness d'Europe, je crois. Ce qui fait que vous accueillez beaucoup de monde et par conséquent, depuis aujourd'hui, eh bien, vous demandez le pass sanitaire à l'entrée. Première question, comment ça s'est passé ?
Alors ça a été une journée plutôt compliquée quand même, parce qu'on a une partie de notre clientèle qui a respecté le pass sanitaire, donc le schéma vaccinal était complet, et malheureusement nous avons toujours des réfractaires, donc nous avons dû malheureusement refuser certaines personnes, aussi bien pour la salle de sport, donc pour le Forest Hill, que pour le parc aquatique.
Et c'était quelle proportion à peu près ?
Alors là, pour être honnête, on a à peu près 40% en moins de notre clientèle qui est venue aujourd'hui.
Donc 40% en moins qui est venue ou 40% en moins quasiment que vous avez été obligé de refuser, vous le savez ou pas? Vous n'avez pas
alors,
forcément les
chiffres? Non, 40% moins de venues. Ouais. En ce qui concerne le refus, on doit être entre 10 à 15% quand même. Mmh. Alors, sachant qu'on a trouvé quand même des pharmacies de proximité, donc toutes les personnes qui n'avaient pas complété leur passe sanitaire, on les a redirigées vers les pharmacies de proximité pour faire des tests antigéniques,
exactement.
Qui sont rapides, donc les gens sont revenus avec, parce que c'était une volonté de passer une journée sur le parc aquatique, mais aussi sur la salle de sport, alors qu'ils sont abonnés sur l'année.
Avant de donner la parole à nos vraies voix, une autre question, beaucoup d'autres professionnels à qui, si j'ose dire, ça pend au nez, ce pass sanitaire, par exemple les restaurateurs, s'inquiétaient du temps que ça prendrait de vérifier à l'entrée, par exemple. Est-ce que ça a été compliqué pour votre personnel ?
Alors, on a mis des renforts, pour être tout à fait honnête. On a rajouté des renforts en sécurité, de façon à faire les contrôles et éviter trop d'attentes, parce que nos clients ont envie d'accéder rapidement aussi bien aux installations aquatiques qu'aux installations sportives. Mm-hmm. Donc, lorsque les gens ont un schéma complet, donc schéma vaccinal complet, mm-hmm. c'est rapide, ça prend à peu près 40 secondes avec la vérification de l'identité. C'est beaucoup plus compliqué lorsque ce sont des étrangers, mm-hmm. puisque tous ne sont pas de l'Europe, donc il faut télécharger des applications étrangères, que ça ce soit pour temps. Les États-Unis, ça prend beaucoup plus de temps, et là, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Hein. Et on n'est pas forcément très bien accompagné dans les explications parce que ce sont des étrangers, ils n'ont pas pris soin non plus, avant d'arriver chez nous, de vérifier ce qu'il en était. Donc, on est obligé de les accompagner. Ouais. On fait beaucoup de pédagogie aujourd'hui.
Mais du coup, on remarque que 40% de fréquentation en moins, un jour où Rémi André vient de nous le dire, il fait particulièrement chaud. Alors, à l'échelle de la capitale, évidemment, il fait plus chaud dans le reste de la France, notamment à Marseille. Ce qui veut dire que c'était un jour où aller à la piscine, si j'ose dire. Alors qu'en fait, beaucoup moins de monde est venu. Tiens, Morad Aïtabouche.
Moi, je suis plutôt favorable au pass sanitaire. C'est la manière dont ça a été lancé et réalisé. Je pense qu'effectivement, il faut une véritable logistique. On parle là de l'Aqua Boulevard. On pourrait parler aussi du cinéma. On pourrait parler des restaurants. Ça va vite. C'est forcément des coûts supplémentaires. Hein. La dame parlait à l'instant, effectivement, la directrice générale parlait à l'instant des conditions.
Nathalie Molmiféro.
Exactement. Des conditions dans lesquelles il fallait accueillir, évidemment, tout ce public. C'est la manière, je trouve qu'on a été un peu brutal. Il aurait peut-être fallu prendre un peu de temps et laisser donc aux professionnels de tous ces métiers, de tous ces secteurs, d'organiser au plan logistique. Et puis aussi, aux clients et puis nous, aux Français que nous sommes, de prendre le temps de pouvoir faire aussi...
De s'organiser ou de faire les vaccins pour ceux qui voulaient en tout cas le faire. Nathalie Molmiféro, vous avez manqué de temps ou pas ? Avec le recul, vous dites que vous auriez eu besoin de davantage de temps pour vous préparer ?
Alors, pour être honnête, au niveau logistique, on a tout mis en place dès l'allocution du président de la République, donc les renforts humains, tout le matériel technique. On a commandé des tablettes pour aller beaucoup plus vite et installer les applications. On a pris de l'humain. Donc, en ce qui nous concerne, nous, sur la logistique, non, on était prêts. On a envoyé des newsletters aussi à nos clients, on les a informés par le standard oralement. Maintenant, effectivement, je déplore ce manque de temps qui a été accordé à la population, parce qu'il y a des gens qui avaient commencé leur schéma et qui n'ont pas fait le deuxième vaccin.
Ils sont pas prêts.
Voilà, ce sont des gens qui ont joué le jeu, parce que je pense qu'il faut à un moment donné être citoyen aussi, et il faut être dans la continuité des protocoles. C'est le temps qui nous a fait défaut pour nos clients. Et c'était beaucoup trop tôt de se laisser juste 10 jours de battement. Les gens n'ont pas eu le temps de se retourner, et ils ont du mal à comprendre qu'ils soient dans un système de schéma vaccinal, mais qu'on les oblige à aller faire un test PCR ou un test antigénique.
Alors qu'ils ont commencé à jouer le jeu, quoi.
Exactement,
aux yeux du gouvernement, en tout cas. Jean-Luc Touly.
Ah ben moi, j'aurais été beaucoup plus radical et beaucoup plus prévoyant. C'est-à-dire que... Moi, je vais vous citer un exemple.
À la place du gouvernement, vous voulez dire.
À la place du gouvernement. Bon, je comprends pour la culture et je comprends aussi pour le sport. Moi, je fais du tennis et du tennis de table. Bon. Mais je parle des EHPAD. Parce que ma mère est dans un EHPAD et je suis le président du comité de la vie sociale. Et depuis des mois, on demande à la direction de l'établissement, qui normalement devrait être à notre écoute au niveau des familles, les aides-soignants étaient, d'après leurs informations, j'en doute un peu, que 40% à être vaccinés. Ce qui fait
donc
que
de facto,
la conséquence, c'est que nos résidents, nos familles qui sont dans cet EHPAD, chaque fois qu'il y avait un membre du personnel qui était déclaré positif, 10 jours de confinement.
Oui.
Et ça durait des mois. Au résultat, il y a eu quelques décès, mais pas forcément liés au Covid, mais perte de poids,
enfermement, isolement, et ça a aggravé les choses.
Et donc,
vous regrettez que ce soit pas allé plus vite et plus fort dès le début, et ça aurait été peut-être
plus
simple.
En même temps, j'ai mon fils aîné qui est dans un commerce.
Ça a été compliqué. Il a peur de refermer comme
c'est
toute la France.
On ne va pas citer.
Benjamin Glaise.
Ben, il n'est pas vacciné. Vous voyez,
Moi, c'est compliqué. Question, ouais. Il y a des débats dans toutes les familles françaises en ce moment, de toute façon. Benjamin Glaise, question pour notre invité.
Oui, Nathalie Monmi-Ferro, sur l'organisation. Donc, vous avez prévu, donc, dès le discours du 12 juillet d'Emmanuel Macron, justement, de prévoir ce pass sanitaire. Concrètement, ça a fonctionné comment? Comment vous êtes organisé? C'est-à-dire du personnel en plus? C'est-à-dire une réorganisation de votre personnel?
Alors, c'est les deux, vous avez tout à fait raison. Donc, il y a, dans la partie logistique, il y a une partie humaine. Donc, on a été obligé de prendre des agents supplémentaires, des hôtesses d'accueil supplémentaires, de les former en amont. Donc, ça a pris du temps, de l'argent. Ensuite, on a été obligé de faire l'acquisition de matériel de façon à pouvoir aller au plus vite. Donc, oui, ça a été quand même beaucoup de contraintes. Elles ont été rapidement faites, mais c'est quand même effectivement beaucoup de contraintes sur les achats, sur le temps passé. Et puis, il faut expliquer, malheureusement, parce qu'il y a des gens qui ignorent encore que le pass sanitaire est obligatoire à ce jour pour tous les établissements dans le loisir et dans la partie culture. Donc c'est vrai que c'était trop rapide. Je rejoins le monsieur qui a parlé tout à l'heure. C'était beaucoup trop rapide. On a fait partie des établissements qui avaient été les premiers à être confinés, les derniers à réouvrir. Ouais. Avec un protocole sanitaire lourd, avec des jauges. Et là, on profite du beau temps, comme vous le disiez, il fait très beau, et on se retrouve avec un pass sanitaire.
On a envie de piquer une tête, et vous vous retrouvez avec le pass sanitaire. Ce sera ma dernière question. En gros, vous aurez moins de clients, alors même que vous devriez en avoir pas mal à cette saison et par ce temps-là. Vous aurez moins de clients, vous allez gagner moins d'argent, alors même que vous allez en dépenser davantage pour accueillir ce moins de clients, et que vous avez eu une année compliquée. Est-ce que vous pouvez tenir longtemps à ce rythme?
Alors, vous avez tout résumé, c'est notre problématique. On est depuis le mois de mars 2020 dans ce système. On ouvre, on ferme, on réouvre, on ferme avec des protocoles. Ça coûte de l'argent, c'est du temps. Donc pour le moment, on a la chance d'avoir un PDG, Monsieur Michel Corbière, qui est un acteur principal de la vie économique sur Paris. Donc voilà, on tient. Mais c'est vrai que l'État a décidé de baisser aussi les aides. Et à un moment donné, ça va être compliqué aussi. Si on n'est pas aidé par notre ministère, ça va devenir de plus en plus compliqué, effectivement.
Il est temps qu'on en sorte, en tout cas, de cette pandémie interminable, de ce cycle couvre-feu, confinement, reconfinement, recouvre-feu, rechute de l'épidémie, repique. Merci beaucoup, bon courage, Nathalie Molmiféro. Vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, dans l'Île-de-France, ou qui serez de passage bientôt, si jamais il fait chaud, piquez une tête dans la piscine, par ce temps-là, ça fait toujours plaisir. Et l'Aqua Boulevard de Paris vous accueillera à bras ouverts. Merci Nathalie Molmiféro. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe de l'Aqua Boulevard de Paris. Les amis, restez avec nous sur Sud Radio à suivre les débats des vraies voix. Est-ce que la droite va se mettre d'accord sur un seul candidat pour 2022? Vous allez voir, c'est encore un petit peu compliqué. Vous votez sur le Twitter de Sud Radio. Vous nous appelez 0826 300 300. Et puis dans un instant, on débriefe avec Benjamin Glaise les annonces de Jean Castex et les premières reculades du gouvernement sur ce satané passe sanitaire. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordier.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 19h avec Benjamin Glaise, Jean-Luc Touly et Morad Aïtabouche. Dans un instant, je le disais, les débats des vraies voix, on va parler de la présidentielle et notamment la présidentielle à droite. Est-ce qu'il y aura un seul candidat? Mais avant cela, on poursuit le tour de table de l'actualité. Et justement, on revient avec Benjamin Glaise sur les annonces de Jean Castex, le Premier ministre. Benjamin, Jean Castex qui a annoncé les premiers reculs, on en parlait hier dans les vraies voix et on le pressentait sur le pass sanitaire.
Nos auditeurs avaient finalement raison, puisqu'il pressentait effectivement quelques reculades de la part du gouvernement, et ça a été le cas après le discours très ferme d'Emmanuel Macron, on s'en souvient, le 12 juillet dernier. Là, on a eu un Jean Castex plutôt rassuriste. Alors, je ne parle pas de l'épidémie, parce qu'il a dit on est entré, ça y est, dans la quatrième vague, mais du côté donc des mesures, alors aussi notamment bien sûr du pass sanitaire, des mesures de freinage aussi, quelques reculades, des aménagements, notamment sur le pass sanitaire imposé aux lieux accueillant du public, on en parlait à l'instant, en ce qui concerne la vérification des passes présentes par les différents clients et donc de leur identité.
Tous les établissements recevant du public seront responsables du contrôle du fait que leur client ait bien un pass sanitaire. En revanche, tout ce qui est vérification, ça, nous considérons que ça n'est pas de leur responsabilité. Ce sera bien entendu dans le cadre des contrôles des forces de sécurité qui interviendront soit à leur appel, soit de manière aléatoire dans le cadre de ce qu'on appelle des plans de contrôle.
Voilà, donc on rassure d'une certaine façon les restaurateurs. Vous n'aurez pas à jouer le rôle de la police. Autre aménagement, là ça concerne les jeunes qui ont eu accès, on le sait, à la campagne de vaccination plus tard. On parle ici des 12-17 ans.
Les
pour
ados.
Eux, voilà, les ados, les collégiens, les lycéens. Avec là un aménagement aussi clair et net de la part du Premier ministre à 13h aujourd'hui. On l'écoute.
Toute notre stratégie depuis le début de la crise, entre autres choses, a consisté à veiller à ce que les enfants de France soient le plus possible scolarisés. Alors, on ne va pas dire maintenant, si vous n'êtes pas vacciné, on va vous priver d'école. Donc, pas de passe sanitaire dans les établissements scolaires.
Donc voilà, donc
tout le monde à l'école.
Clairement, voilà, tout le monde à l'école, pas besoin de passe sanitaire pour aller au collège ou au lycée. Alors il y a d'autres mesures comme ça où on peut noter quelques reculades avec notamment les personnes vaccinées qui n'auront pas à s'isoler s'ils sont cas contact. Mmh. Voilà, ça c'est une autre mesure aussi qui a été annoncée. La logique, elle est assez claire, c'est celle de ne pas brusquer finalement ceux qui hésitent encore au niveau de la vaccination. En gros, le pari du gouvernement, c'est de dire ceux qui sont anti-vaccins sont ultra minoritaires selon le gouvernement. Et donc, pas besoin de les convaincre, ça ne sert à rien.
Ils n'y arriveront pas.
Ils n'y arriveront pas. Donc, on a des mesures un peu plus souples, histoire de laisser du temps et de ne pas forcer la main à ceux qui hésitent.
De pas vexer.
De les amener en douceur. Ouais. En gros, c'est un peu l'idée que ça donne, de la part de Jean Castex.
Une poigne de fer dans un gant de velours, en quelque sorte. Ça paraît presque, par rapport à la stratégie du gouvernement, ça paraît presque paradoxal, notamment la disparition du pass sanitaire à l'entrée de l'école, dans la mesure où on sait que le gouvernement veut massifier la vaccination dans les écoles à la rentrée. Mmh. Et qu'en même temps, cette épidémie, celle qui circule en ce moment, elle touche surtout les jeunes. En tout cas, c'est eux qui la font circuler. Vous disiez que c'était trop vite, trop fort, vous n'étiez pas content de l'application Morad ?
Non, ce que je regrette, moi, c'est utiliser le mot reculade. J'adore les mots et je trouve que reculade n'est pas à bon escient, en tout cas dans cette décision qui a été prise par le Premier ministre. Pourquoi parler de reculade ? Il faut un moment, effectivement, on est entré dans une quatrième vague, donc il faut qu'il prenne des décisions. Tout à l'heure, on disait que le gouvernement avait peut-être tardé à prendre des décisions pour imposer le pass sanitaire. On ne peut pas systématiquement le reprocher sous forme de mots qui sont quand même un peu connoté reculade, je trouve ça un peu fort.
Mmh.
Je
pense qu'à un moment, peut-être,
aménagement, en tout cas, malheureusement, on le sait.
C'était l'impression que j'avais, en tout cas.
Oui, mais avec cette crise sanitaire, on est dans une situation qui est délicate. Depuis le début, on est dans une grande incertitude. On a malheureusement, y compris des sachants, les médecins, les épidémiologistes et les autres, qui ne savent pas. Ou en tout cas, on est dans l'impasse, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quand aura lieu le bout du tunnel. Il faut s'adapter. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, les décisions qui sont prises, c'est des décisions d'adaptation à un contexte qui devient de plus en plus délicat, mais toujours incertain. Mmh. Et c'est ça la difficulté. Alors, pardon Benjamin de vous reprendre
C'était moi qui lui avais suggéré ce terme. Si je peux plaider, on va le défendre.
Je suis totalement d'accord, on peut parler d'aménagement. Il y a aussi ce jeu entre Emmanuel Macron et Jean Castex. Il y en a un qui tape, il y en a un qui
cajole de l'autre côté.
Exactement Jean-Marie. Et c'est, malheureusement, il y a ce jeu aussi qui est un peu dérangeant dans une situation aussi critique de crise, où on a l'impression que la politique est encore très présente, peut-être
mais
trop
parce
présente.
Parce qu'on est encore une fois c'est à l'image finalement de ce qui se passe aujourd'hui, cette incertitude, c'est difficile d'avoir un discours définitif. Mm-hmm. Celui qui aujourd'hui dirait, Dieu sait s'il y en a malheureusement, que la pandémie est derrière nous, il serait invité partout sur certaines chaînes de télé. Sauf que moi, je trouve ça un peu dommage. Il faut avoir un discours raisonnable et pragmatique. Aujourd'hui, c'est malheureusement, on ne sait pas tout et on est une fois dans l'incertitude.
Jean-Luc Touly.
Alors, je ne suis pas d'accord, mais le mot reculade ne me pose pas de problème quand on a fait une erreur. Reculade, c'est le contraire, c'est exemplaire. Les gens qui reconnaissent qu'ils ont fait des erreurs, c'est tellement rare. Donc, moi, c'est pas un problème.
D'accord.
Mais là, je dis que c'est pas courageux. On aurait dû réagir depuis bien longtemps. Alors, c'est facile de le dire aujourd'hui, ça, je veux bien le comprendre. Mais quand même, on sait très bien que si on n'arrive pas à un taux de vaccination très important, de nouveau, on aura une quatrième, une cinquième vague.
On est dans la quatrième.
Donc, comme c'est une politique ni gauche, ni droite, centre, mou, on va pas jusqu'au bout des choses, et bien évidemment...
Vous auriez vacciné tout le monde et de force.
Pas de force, parce que je suis pas idiot.
Non, mais vous l'auriez imposé, ce qui revient
quasiment... Ah, je l'aurais imposé, oui.
Mais
pourquoi on a 11 vaccins pour les enfants ? Ouais. Quand on va dans un pays étranger, il faut se faire vacciner pour la fièvre jaune. On ne se pose pas la question. Pourquoi le passe ?
Mais est-ce qu'on a plus de recul sur ces vaccins-là aussi, quand on les a imposés ?
C'est un des arguments.
Il y a des millions de personnes qui sont vaccinées. Il y a eu quelques morts, quelques problèmes. Mais c'est très peu. Moi, j'ai eu une première dose d'AstraZeneca.
Oui.
J'avoue que j'étais un petit peu avec tout ce qu'on racontait.
Vous aviez peur.
Bon, on m'a mis une deuxième dose Moderna. Donc j'attends la troisième Pfizer, comme ça j'aurais fait les trois.
Oui, c'est ça. Vous nous direz lequel vous préférez, surtout.
Mais j'en sais rien, j'ai pas eu de grosses séquelles. Mais c'est le seul moyen pour endiguer. pas de manière, comme tout vaccin,
donc
ça ne va
vous,
pas régler
pas
à 100%.
Hésiter, le gouvernement ne devrait pas.
Sinon, ça va durer.
Et en même temps, le président Macron, dès le lendemain de son allocution, 1 million ou 2 millions de personnes étaient inscrites, s'inscrivaient pour justement se faire vacciner. C'est bien la preuve que parfois, le pouvoir doit être volontariste. Et quand je dis volontariste, c'est qu'il faut décider, alors pas imposer de manière, évidemment,
mais le bâton dictatorial. Et la carotte, par
moment. C'est la première fois, avec M. Macron depuis 2017, avec lequel je suis d'accord sur ce qu'il a dit. Vous voyez.
Écoutez, on enregistre, Jean-Luc Touly.
Mais donc, ça ne durera pas, hein,
ça ne durera pas, bien entendu. Allez, restez avec nous, les amis. Les vrais voix viennent dans quelques instants à suivre. Je le disais, les débats des vrais voix, l'incertitude, elle n'est pas que au gouvernement. Elle est aussi à droite dans l'opposition chez les Républicains. On va parler de la présidentielle. Est-ce qu'ils vont arriver à se mettre d'accord sur un seul candidat entre Pécresse, entre Bertrand, entre Wauquiez, pourquoi pas Retailleau? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300. Et effectivement, vous avez bien raison de le souligner, Philippe Juvin. À tout de suite. Americano, americano, americano. Ma in Italia, sienta me non c'è sta niente a fa. Oh che napolitan, tu o fa l'American, tu o fa l'American. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix Sud Radio avec Benjamin Glaise, Morad Aïtabouche et Jean-Luc Touly. On parlait du pass sanitaire.
Ah, le DJ.
Il faut absolument saluer, on le dit jamais assez, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, rendre hommage au réalisateur des vraies voix Sud Radio qui s'appelle Jamel Abdellah, qui est absolument excellent. Toutes les musiques que vous entendez, tous les montages que vous entendez qui sont bien choisis, c'est lui qui est derrière tout ça et on l'embrasse.
Bah comme certaines boîtes de nuit sont fermées.
Voilà, exactement. Le confinement des uns fait le bonheur des autres.
Et si vous voulez savoir son numéro de portable, c'est tout à fait facile. C'est le 06.
Presque, on va y arriver.
Vous venez de l'embarrasser pour au moins 15 jours.
Ne jamais vexer le réalisateur dans la mesure où il a le pouvoir de couper le micro à qui il veut, même à l'animateur. Quoi qu'il en soit, on a parlé du pass sanitaire, on commençait à s'engueuler, comme tout Français qui se respecte en ce moment. Du coup, on a décidé de débattre sur autre chose. La politique, c'est beaucoup plus pacifique.
Les vraies voix Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio qui se penchent sur la droite. Est-ce que la droite est capable de se mettre d'accord sur un seul candidat au présidentiel en 2022? C'est la question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour nous donner votre avis. Hier, une bonne partie des candidats, plus ou moins déclarés, des présidentiables, disons, des Républicains et de la droite, se sont donné rendez-vous dans un hôtel parisien. 5 candidats potentiels. Il y avait Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, Monsieur Barnier, il y avait Philippe Juvin, le médecin chef des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris, et Valérie Pécresse. Ils ont tous pris un engagement, il y aura une candidature commune. Sauf que comment ça va se passer? On ne sait pas, primaire ou pas primaire, on ne sait pas. Et surtout, il en manquait un de taille, le seul qui est officiellement candidat depuis un bon moment, c'est le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Bref, la droite va-t-elle se mettre d'accord? Vous votez et vous nous appelez au 0826 300 300. Muriel, bonsoir à vous.
Eh bien, bonsoir, Libre Voix.
Bienvenue.
Bonsoir. Bonsoir.
Sur Sud Radio.
Contente de vous retrouver. Alors, écoutez, moi, je suis à peu près sûre qu'ils vont se mettre d'accord parce qu'ils ont pris une telle raclée la dernière fois que ça leur est resté en travers.
Vous parlez de la présidentielle.
Tout à fait, bien sûr. Et de... Alors, dans les gens, heureusement que vous avez dit les potentiels, parce que moi, je n'ai pas entendu Laurent Wauquiez dire qu'il allait se présenter.
On a parlé des présidentiables, mais le fait qu'ils soient choisis tous entre ces cinq-là pour se rencontrer
C'est
hier...
C'est les présidents de région, quelque part, donc ils
tous,
ont une légitimité...
Pas Juvin, pas Barnier, par exemple,
mais Valérie Barnier, Pécresse. Lui, il est à l'Europe, voilà, Pécresse, bah si, Retailleau, il est chef des sénateurs LR au Sénat, donc voilà. Et le problème de Xavier Bertrand, bon, s'il veut partir, il part, mais il ne pourra pas partir sans soutien. Donc forcément, ils vont tous être obligés de prendre des accords. Et croyez-moi, cette fois-ci, ils vont trouver des accords.
Et vous pensez qu'ils se mettront d'accord parce qu'ils voudront éviter en fait le second tour Macron-Le Pen une nouvelle fois? Vous-même, vous êtes plutôt proche des Républicains, Muriel?
Oui, oui, complètement. Enfin, je suis pas adhérente, mais je vote
sympathisante.
À droite,
voilà. Et vous êtes optimiste pour leur chance ou pas? Ce sera ma dernière question.
Oui, si c'est le bon candidat.
Si c'est le bon. Et vous avez une préférence?
Ça reste entre nous, hein.
Oui. On répétera pas.
Personne n'écoute.
Non.
Bon. Non, moi personnellement, ouais. Je suis assez Wauquiez.
Voilà. Vous êtes plutôt pour Laurent Wauquiez, le président
oui,
de la région.
Tout à fait, parce que c'est quelqu'un qui gère. C'est la région la mieux gérée de France. Mmh. C'est quelqu'un qui a toujours été droit dans ses bottes, voilà. Ni à l'extrême droite, mais pas non plus mou du genou, mmh. voilà. Et après...
c'est votre ligne, ça
oui,
vous convient.
C'est ma ligne.
Merci beaucoup Muriel.
Attendez, est-ce que je peux faire passer juste un message qui vient de nous tomber de la préfecture de l'Hérault. Mmh.
Vous êtes à Béziers, oui.
Le port du masque est obligatoire oui. dehors... Partout, sauf à la plage, aux rivières et dans les forêts.
Voilà. C'est ça. Vous êtes en pleine reprise épidémique, surtout dans l'Hérault. On va en reparler, ma chère Muriel. Faites attention à vous aussi. Les départements du littoral de la France, et en particulier le littoral méditerranéen, qui sont très touchés. Ça va jusque dans les montagnes. On ira aussi dans l'Ariège, où la même décision a été prise par la préfète aujourd'hui. Merci, Muriel, de nous avoir appelé au 0826-300-300 depuis Béziers. On vous embrasse. Morad Aitabouche, la droite. Un candidat, deux candidats, trois candidats, Wauquiez.
Il y aura probablement des primaires, mais ouais. c'est un peu la guerre des égos. Mmh. Et mmh. ça sous-entend quand même qu'il n'y a pas un leader qui se dégage à droite. C'est quand même la première leçon. La deuxième, c'est quand même que lors des dernières primaires, ils ont choisi un candidat qui finalement avait trop de casseroles et qui n'a pas
François
pu
Fillon.
Aller au-delà du premier tour. Il faut dire aussi, il faut quand même rappeler qu'à gauche, il y avait eu des primaires que Manuel Valls, tout le monde s'en souvient, avait dit « je me rangerai du côté oui. du vainqueur, Benoît Hamon ». On sait ce qu'il
Il
est arrivé, il est devenu
Macron.
Après.
Il est parti en Espagne. Oui.
Il est parti en Espagne, il a trahi. Enfin bref, c'est un opportuniste. L'avantage, c'est que maintenant, on le sait. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on regarde les primaires, elles accouchent toujours de quelque chose qui finalement...
Ne marche pas en France.
Non, mais c'est contre-productif. C'est-à-dire que ça leur revient comme un boomerang. Donc, organiser des primaires à droite, qu'est-ce qui va se passer ? Une guerre des égos ? À la fin, ils vont de toute façon devoir sortir... Peut-être pas l'artillerie lourde, parce qu'ils savent ce qui s'est passé la fois dernière avec Fillon, Sarkozy, etc. Mais ils vont quand même lâcher les boules puantes. Ouais. Et ça, c'est jamais bon dans un parti quand dans les primaires,
donc faut faire semblant
on balance
de tous
sur
s'aimer.
Ses camarades.
Mieux vaut faire semblant de tous s'aimer avant l'élection.
Peut-être que je vais me tromper, qu'ils vont enfin nous parler de programme, nous parler de volonté pour demain,
Jean-Luc
avec Tully. Un vrai programme.
Est-ce qu'on va avoir, après la droite, puis la gauche la plus bête de France, de nouveau la droite la plus... Bon. Moi, j'en connais deux. Parce que j'ai
des présidentielles, vous voulez dire,
oui,
ou des droites
oui,
parce qu'il y en a beaucoup
Juvin
aussi en ce moment.
Et Valérie Pécresse, que j'ai été conseiller régional avec M. Huchon. M. Huchon qui a soutenu
Jean-Paul Huchon,
Madame
qui était
Pécresse.
À l'époque le président donc, socialiste de la région Île-de-France.
Tout est possible. C'est vrai que... moi, je viens de la gauche. C'est vrai que Philippe Juvin, j'aime bien.
Oui.
Voilà, mais c'est totalement irrationnel.
Vous venez de la gauche et vous avez un candidat de droite qui vous plairait bien, quoi.
Bah, de toute façon, à gauche, il n'y en a aucun qui me plaît.
Donc vous voterez à droite, c'est un deuxième scoop sur Sud Radio.
Non, je ne dis pas ça,
Moi, j'ai quand même une question.
Oui.
Le programme de Philippe Juvin, c'est quoi ? En quelques mots, ses promesses ?
Je pourrais pas le
Jean-Luc Tully.
Citer ses grandes...
C'est le personnage...
C'est le personnage, parce que moi, je le côtoie dans un certain nombre de syndicats intercommunaux.
Vous pouvez pas le côtoyer à Pompidou, par exemple, au service des urgences, il y est vraiment très, 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 très peu.
Quand c'est un petit coup, bah, ça quand même...
Non, c'est une réalité. J'étais à Pompidou pendant toute la période du Covid.
On rappelle, Philippe Juvin est un ancien député.
Il est maire, il est aussi prétendant candidat à la présidentielle.
Et il est chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou. Jean-Luc Tully.
C'est tellement banal que tous les élus de droite et de gauche multiplient le nombre de mandats et de fonctions.
Il est par ailleurs maire de la Garenne Colombes.
Tant qu'on n'aura pas un statut d'élu avec une rémunération...
Ça, c'est autre chose et un autre débat. Voilà. Bref, revenons à la droite.
Mais
un candidat, deux candidats, et ensuite la parole...
Moi, je vous dis...
Ils vont se mettre d'accord ou ce sera...
C'est deux candidats d'Île-de-France. J'ai été au conseil régional d'Île-de-France. J'habite en Île-de-France, donc c'est un peu facile. Mais j'ai rien contre les autres.
C'est ça.
Mais c'est vrai
Ils se mettront d'accord ou pas ? C'est ça, ma vraie question, en fait.
Le problème, c'est
au-delà
que...
Au-delà de vos préférences.
Ma préférence, je vous dis, c'est plutôt...
Oui, c'est pourquoi je vous demande si vous pensez qu'ils se mettront d'accord. C'est surtout ça la question.
Moi, je pense qu'ils vont se mettre d'accord, parce que pour les raisons que Muriel a évoquées tout à l'heure. Et d'autre part, je pense que Philippe Juvin, entre autres, et peut-être d'autres, savent très bien que ce n'est pas eux qui vont être choisis au bout du bout.
Les outsiders.
Mais que, bon, bah, peut-être pour un poste de ministre.
On va voir ce que ça donnera. C'est comme ça que vous négociez. Benjamin Glaise.
Alors, je ne sais pas, je ne vais peut-être pas relancer la polémique sur le terme de reculade, mais à noter quand même qu'il y en a une petite de la part de Xavier Bertrand, parce qu'il a rencontré quand même aujourd'hui Christian Jacob, Gérard Larcher et Jean Leonetti. Il y a eu des discussions, donc lui qui ne voulait absolument pas rencontrer éventuellement d'autres candidats potentiel, il a fait un pas. Et c'est un pas important.
Il a rencontré les patrons du parti, mais il n'a pas voulu se mettre sur la photo autres candidats possibles.
Mais c'est un premier pas, quand même. C'est un premier pas important à noter, je pense. Mmh. Et puis sur la question des primaires, c'est vrai que ça ne marche pas, quoi. On le voit bien. Ça veut dire qu'en gros, pendant les primaires, on a un discours, voire un programme pour les primaires à droite toute, en l'occurrence là. Ouais. Et puis pour les présidentielles, il faut faire un nouveau programme pour recentrer un petit peu,
avec un coup de barre
idées, ces mesures, avec un coup de barre, si ce n'est à gauche, en tout cas, oui, plus centriste. Et à ce moment-là, que ça soit les militants ou les autres, on a du mal à s'y retrouver et on ne comprend pas trop
ce qui s'est passé à droite et à gauche au terme des deux primaires, d'ailleurs, de 2017. La primaire de la gauche a choisi le candidat le plus à gauche, c'était Benoît Hamon, et la primaire de la droite a choisi celui des trois, un des trois, en tout cas, qui était parmi les plus à droite, c'était François Fillon. Morad ?
Je veux bien revenir sur le mot reculade. Il faut quand même préciser.
Que nous avancions aussi un petit peu.
Mais on avance, vous inquiétez pas. Ouais. Reculade à propos de Xavier Bertrand, là encore une fois, comment peut-il se présenter aux élections présidentielles s'il n'est pas soutenu par son parti? Comment peut-il se présenter sans les finances de son parti? En fait, aujourd'hui, il a essayé de peser sur le débat, à savoir faut-il ou non une primaire à droite. Lui est fondamentalement contre. Mais il sent bien que le vent est en train de tourner. Il sent bien que Christian Jacob, aujourd'hui, veut des primaires parce que les autres candidats imposent une primaire. Oui, oui. Donc, on est dans une situation aujourd'hui où Xavier Bertrand, qu'il le veuille ou non, va, entre guillemets, rentrer dans le rang. Ce ne sera pas une reculade. Mmh. C'est logique. On est dans un système de parti en France.
Vous n'aimez pas le terme.
Il a essayé, par contre, un peu à la Macron de rassembler, en tout cas, des entrepreneurs, des gros industriels, la société civile autour de lui. Et a priori, là, s'il revient vers son parti, c'est que aussi, peut-être, ça n'a pas marché comme il le souhaitait.
C'est en tout cas un candidat qui a quitté le parti Les Républicains et qui aujourd'hui a rencontré les principaux responsables
de Marine Le Pen, qui était la présidente, et qui maintenant veut se présenter, mais n'est plus la présidente
du Rassemblement national. C'est un autre parti. Donc, on y reviendra. Mais oui,
sauf qu'elle a des finances.
Et elle a le soutien de son parti, c'est un autre sujet. Mais on reparle. On reparlera de Marine Le Pen, si elle vous manque, Jean-Luc Touly, promis, on en reparlera dans les vraies voix Sud Radio. On vous posait la question, chers amis qui nous écoutaient sur Sud Radio, en parlant des primaires de Xavier Bertrand, de Laurent Wauquiez, de Valérie Pécresse, de tous les autres. Est-ce que la droite va se mettre d'accord sur un seul candidat en 2022? Pronostic, ou plutôt réponse catégorique des auditeurs de Sud Radio, c'est un grand non à 84% d'entre vous. On poursuit le débat des vraies voix, ou plutôt les débats des vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio.
On a cassé la planète, cette chanson qu'on vous propose à l'écoute de Sud Radio pour parler justement de la planète et de son état. Les inondations meurtrières qui ont frappé il y a quelques jours la Belgique et l'Allemagne, plus de 200 morts en Europe, des inondations monstrueuses en ce moment même dans le centre de la Chine, un barrage qui risque de s'écrouler alors même qu'il est situé juste à côté d'une ville de 2 millions d'habitants, des pluies qui sont tombées en 3 jours alors qu'elles auraient dû tomber pendant un an sur une des provinces les plus peuplées, et 200 000 habitants à ce stade qui ont déjà dû être évacués. Question que nous vous posons, est-ce que le changement climatique est déjà là cet été? Je vous propose d'abord de poser la question à celui qui connaît mieux le sujet, le réalisateur de la série Sale Temps pour la planète. C'est Morad Aitabouch.
À chaque fois qu'il y a une inondation, on ne va pas remettre le débat. Le changement climatique est en cours et on est dans une logique d'urgence. Ce qui s'est passé en Belgique, ce n'est pas une crue exceptionnelle. En 1926, il y a déjà eu une crue centennale. En France, on est déjà en train de provisionner sur une prochaine crue centennale sur la Seine, donc dans Paris. Ça va nous coûter au minimum 60 milliards d'euros de dégâts, plus 60 milliards, voire plus, pour essayer de relancer l'activité économique.
Sauf que ça a toujours... Alors, une crue centennale, notamment sur la Seine ou sur la Loire, ça peut arriver aussi, c'est toujours arrivé, ça arrivera encore, c'était pas forcément le changement climatique il y a un siècle.
Alors, sauf que centennale, ça veut dire tous les 100 ans.
Une chance,
là, on sent... Une chance tous les 100 ans, une chance ou un risque tous les 100 ans, je dirais plutôt. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça s'accélère. Aujourd'hui, on est plutôt à 70 ans. Demain, ça sera 50. Mais ce qui est le pire aujourd'hui, c'est en fait, encore une fois, c'est la manière dont on occupe l'espace aujourd'hui, dont on artificialise les zones qui étaient avant des campagnes, et ça devient des zones urbaines. Je prends un exemple qui le film qui passe ce soir sur France 5 à 20h50, sur les Pyrénées-Orientales et le Roussillon. Il y a eu, en 1940, ça a été filmé, figurez-vous, par le régime de Vichy, des inondations monstres. La ville d'Amélie-les-Bains a failli être complètement rayée de la carte. Amélie-les-Bains, c'est énorme ce qui s'est passé à l'époque. On a reconstruit au même endroit.
Oui.
Aujourd'hui, je dirais même qu'il y a plus d'infrastructures, de villas, de maisons sur les bords du
Si je suis votre raisonnement, vu que nous parlons du changement climatique, vous dites non seulement bien sûr qu'il est déjà là, les catastrophes qu'on a toujours connues, les grandes inondations qui sont toujours arrivées, hein, y compris à Toulouse par exemple, elles arriveront encore plus. Et le plus grave, c'est qu'on fait comme si elles n'étaient jamais arrivées, alors même qu'en gros, on va vers des catastrophes.
En fait, on ne va pas se mentir. Oui, on va vers des catastrophes parce qu'on n'est pas assez à l'écoute de ce qui se passe. On n'est pas assez à l'écoute
ou de ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est encore plus
de
grave.
Ce qui s'est passé, mais à l'écoute aussi des experts qui aujourd'hui nous disent très clairement qu'il va y avoir de plus en plus de phénomènes extrêmes, c'est-à-dire des pluies diluviennes. Quand vous passez à Amélie-les-Bains, vous avez le Tech, c'est un petit filet d'eau. À aucun moment l'été, vous pouvez imaginer que ça devienne un mini-tsunami. L'hiver, pourtant, ça peut se transformer en mini-tsunami. Vous allez aussi sur les côtes du Roussillon, vous voyez exactement la même chose. C'est-à-dire que les gens voient des petits filets d'eau. Dans les Alpes-Maritimes, on a construit un centre commercial sur un petit filet d'eau.
Oui.
Et un jour, il y aura des pluies diluviennes et ça va être des crues torrentielles.
Jean-Luc Tully.
Moi, ma spécialité depuis une quarantaine d'années, c'est justement la gestion de l'eau. Et donc, je connais là Amélie-les-Bains et Céret, puisque avec Madame Mitterrand, il y a une dizaine d'années, on a fait des réunions publiques avec les associations locales. Et on avait dénoncé, si vous voulez, l'inaction. Et je suis gentil de ça, de l'agence Adour-Garonne.
Oui, à l'époque.
Parce qu'il y a 6 agences de bassin.
Dans la prévention du risque
dans
inondation.
Dans la prévention du risque.
Sauf que là, on parle du changement climatique. Alors, Ce qu'on constate un peu partout, en gros, c'est que ça arrivera de plus en plus souvent.
Absolument. Mais ça,
la vallée de la Roya qu'on a vécue cette année, par exemple, dans les Alpes-Maritimes, qui a été terrible, ça a été absolument dramatique.
Il y a des solutions. D'ailleurs, dans ma propre ville, il y a des inondations.
Ouais.
On est en train de faire...
C'est quoi la solution
au
déménage ?
Des zones humides.
Des zones de rétention d'eau.
Mais de rétention d'eau,
voilà.
Forcément.
Donc on va devoir s'adapter encore davantage à ce changement climatique. Si je continue mon tour du monde, d'ailleurs, on peut constater d'autres phénomènes. Des incendies qui font des ravages au Canada en ce moment. Un dôme de chaleur, on en a beaucoup parlé, qui a permis aux Canadiens de découvrir les plus de 50 degrés par moment. Benjamin Glaise.
Moi, ce qui m'étonne, c'est globalement dans les générations qui arrivent là, à l'âge adulte, on a une prise de conscience claire et nette sur cette question écologique. Et on a de plus en plus de jeunes adultes qui se mettent en couple et qui hésitent même à avoir des enfants. Et moi, ça m'interpelle beaucoup de me dire qu'on arrive à ce point. C'est-à-dire que finalement, le fait d'avoir des enfants, eh bien, on se pose la question maintenant dans quel monde ils vont grandir. Et
on rappelle le lien de cause à effet.
Il vaut mieux ne pas en faire.
D'accord. Ça, c'est le pessimisme de votre génération, vous pensez ?
Et de plus en plus, je le note
effectivement. Sachant qu'il y a aussi des théories qui disent que... Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas des théories, c'est un calcul. Qui que ce soit sur Terre pollue lui-même pendant sa vie. Un enfant, ça pollue. Si vous en avez deux, vous polluez plus.
Alors, je n'étais pas jusqu'à cette logique-là qui peut être une logique un peu plus idéologique.
C'est
là, c'est vraiment une inquiétude pour
et
ses
vous,
propres
vous avez peur,
enfants.
Enfin, à titre personnel.
Non, mais j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont mon âge, petite trentaine, et qui se posent vraiment la question.
À cause du changement
très sérieusement,
climatique.
En se disant, nos enfants vont grandir dans cet environnement-là, et comment ça va se passer pour eux avec des chaleurs qu'on annonce certains étés en France à plus de 50 degrés de manière récurrente.
Il faut quand même imaginer, pardon Jean-Marie, mais il faut quand même imaginer que le changement climatique aujourd'hui, c'est transversal. C'est-à-dire que conséquences, les effets sur la vie quotidienne, c'est autant sur le plan économique, sur le plan sociétal, sur le plan social,
sur la santé,
sur évidemment les dégâts donc sur le plan économique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui le changement climatique nous oblige, nous interpelle, mais nous oblige surtout à changer de paradigme, changer de monde. Si on ne change pas de monde, si on ne devient pas plus résilient, c'est-à-dire que si on ne s'adapte pas à ce qui est en train de se passer, parce que
et
là, il y a une vraie urgence. Je termine juste en disant que malheureusement, on sait que le changement climatique, on a appuyé sur le bouton il y a déjà 20 ou 30 ans.
Donc, c'est presque trop tard.
C'est comme un Titanic qui est en train de foncer
sur l'iceberg, l'inertie du bateau est telle qu'il faut des années et des années avant de pouvoir dévier la trajectoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on devienne tous des anges, pas des anges dans le sens
faudrait,
où on va demain devenir résilients et des vrais anges au sens où on va plus consommer de viande, etc.
Mais il faut prendre sur nous et il faudrait qu'on change beaucoup de notre vie d'après vous.
Avec une volonté politique aussi. Parce que voilà, c'est vrai que c'est les discours qu'on entend, on parlait d'inaction, c'est les discours qu'on entend depuis très longtemps.
Il restera à convaincre beaucoup d'électeurs ou aussi beaucoup d'auditeurs de Sud Radio, parce qu'on vous pose cette question, est-ce que le changement climatique est déjà là cet été avec les phénomènes qu'on constate un peu partout? Vous répondez pour l'instant non à 68% d'entre vous. Vous êtes un certain nombre à nous dire notamment que les inondations, il y en a déjà eu avant. Alors c'est vrai que c'est la fréquence qui risque de changer, voire leur violence. Temps, restez avec nous sur Sud Radio. Restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve. Restez, les amis, avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. On va retrouver Grâce Le Plat pour les rois de l'info, justement. Tiens, on va se détendre un petit peu. Est-ce que vous avez suivi l'actualité insolite du jour? À tout de suite. No one remembers your name when you're strange.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Les vraies voix Sud Radio avec Benjamin Glaise qui à l'instant s'est chauffé la voix au micro Sud Radio. Nous sommes également avec Jean-Luc Touly et Morad Aïtabouche. Grâce Le Plat nous rejoint ce soir dans Les vraies voix. Bonsoir à vous ma chère Grâce.
Bonsoir Jean-Marie, bonsoir à tous.
Avec vous, on va jouer au 0826-300-300.
Les vraies voix Sud Radio. Le roi de l'info.
Et tout de suite, on joue donc au 0826-300-300 avec nous Christine. Bonsoir Christine.
Oui, bonsoir les vraies voix.
Bonsoir.
Je vous apporte un petit peu de gaieté là, du Gard, parce que les informations ne sont pas brillantes.
Non, c'est vrai, on fait ce qu'on peut, pourtant je vous assure Christine.
Grâce. Je vous crois.
Pour commencer Christine, avec quelle vraie voix voulez-vous jouer? Morad Aïtabouche, Jean-Luc Touly ou Benjamin Glaise?
Eh bien, je vais jouer avec Benjamin Glaise.
Vous avez bien raison.
On rappelle les règles.
Alors, c'est parti. Je vais donc vous poser trois questions. C'est vous, Christine, qui commencez. Si vous vous trompez, les vraies voix répondent. Si c'est Benjamin Glaise qui gagne, alors vous remportez le point grâce à lui. Du coup. Première question. Je vous emmène aux États-Unis à la rencontre de Sarah Williams. Alors, Sarah, c'est une Américaine sans histoire. Elle a 41 ans. Et elle a fait parler d'elle pour la première fois il y a quelques jours en allant chez le garagiste. En fait, Sarah a acheté une Tesla, une voiture électrique, sauf que le climatiseur ne fonctionne plus, donc logiquement, elle va chez le garagiste et là, bah, surprise, il trouve un rat confortablement installé dans la boîte à gants. Alors, c'est, ce rat qui est, c'est ce rat qui est à l'origine des soucis techniques de la voiture. Alors selon vous, Christine, pourquoi? Réponse A, parce qu'il est friand des câbles de voiture. Mmh. Réponse B, pour se protéger de la chaleur, ou réponse C, pour avoir des petits?
Bah, j'irais pour avoir des petits, peut-être. Non.
Grâce.
Ah bah non, c'est pas la bonne réponse. Dommage, les vraies voix.
Les vraies voix.
La première.
Qu'est-ce qu'un rat fait dans un moteur de voiture électrique de Tesla, Grâce? C'est quoi la réponse?
Il
se nourrit des câbles de voiture, exactement.
Et ça n'arrive pas que pour les Tesla, malheureusement.
Ça arrive à toutes les voitures.
Ça arrive régulièrement dans les voitures thermiques.
C'est pas grave. Allez, on va continuer, Grâce.
Il y a une explication quand même à tout ça. C'est parce que Tesla, comme en effet d'autres constructeurs automobiles, utilise du soja pour isoler ses câbles.
Ah, voilà. Bah oui, c'est pas grave.
Ça attire les rats.
Et oui,
voilà.
Pourquoi pas du fromage aussi, hein, pour attirer les souris pendant
les autres constructeurs aussi. Hein,
deuxième question.
On va s'attraper.
Allez-y.
Donc, zéro point pour Christine. Mais bon, deuxième question. Cette fois-ci, on s'en va en Russie, dans le petit village de Oust-Kamchatsk. Alors, soyez gentils avec moi, je ne sais pas comment ça se dit.
C'est bien, c'est ça.
Donc, le ciel, là-bas, le ciel se remplit de tornades d'insectes. Il y en a des centaines, il y en a vraiment partout. Mmh. En fait, ce sont les mâles qui font la cour aux femelles. De quel insecte s'agit-il? A, des abeilles, B, des moustiques ou C, des coccinelles?
Oh là là, mais c'est quoi ces questions?
C'est l'Arche de Noé pour vous, Christine.
Ben, au hasard, les coccinelles, parce que j'aime bien les coccinelles, voilà. C'est pas
ah
ça.
Non,
non.
Ah
les abeilles, allez, les moustiques.
Oh, les moustiques. Abeilles.
C'est les abeilles ou les moustiques?
Quelle horreur.
Vous gagnez le point grâce à Benjamin.
Vous égalisez, justement.
Merci, Benjamin.
Et nous,
avec grand plaisir.
On a le bourdon, nous.
Et vous avez le bourdon, exactement. Dernière question.
Dernière question, à Amsterdam, un nouveau pont vient d'être inauguré. Il fait 12 mètres de long, il a fallu 6 mois de travaux et 4500 kg d'acier pour le construire.
Pour 12 mètres
Oui, bah, je ne vais pas vous poser, ce n'est pas un problème de maths, hein, vous inquiétez pas.
Allez-y.
Je vais juste vous demander quelle est la particularité de ce pont. Quelle est la particularité de ce pont? Alors A, il est construit à l'envers. B, il est construit par une imprimante 3D. C, c'est un pont canal, les bateaux passent dessous et dessus.
C'est rien.
La réponse
au hasard, Christine.
Suspendu?
Non.
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 3D, 3D. Imprimante, évidemment.
Oui, bravo, Benjamin.
Allez, sauvé par Benjamin.
Ah non, mais trop facile, Benjamin, il répond 3D. Alors qu'on n'a même pas encore entendu la réponse de Christine.
Bravo,
Christine.
Vous en sortez bien grâce à Benjamin Glaise, en tout cas.
Bravo à vous.
Vous avez choisi le coéquipier le plus roublard.
J'ai un peu triché, mais c'était pour vous.
Voilà, c'est ça. Il a sacrifié son honneur pour vous, ma chère Christine. Vous le saurez. En tout cas, mais effectivement, il y en a aussi, si ça peut vous rassurer, des ponts suspendus aux Pays-Bas. Il y en a un certain nombre, il y a même aussi beaucoup
même
de ponts
canals.
Même
dans notre région, mon cher Jean-Marie.
Oui, je sais, mais on parlait des Pays-Bas,
bien sûr. À Briard, ou du côté du canal du Midi.
Il y avait aussi, vous avez une pente d'eau, par exemple, c'est un autre ouvrage d'art, ça c'était à Montec. Quoi qu'il en soit, belle soirée à vous, Christine. Merci à vous, Grâce Le Plat. On vous retrouve pour le clin d'œil des vraies voix. Vous nous raconterez une histoire rocambolesque de sexisme dans le sport de plage. Ça concerne les femmes, vous verrez. C'est pas piqué des hannetons. Restez sur Sud Radio. Les amis, les vraies voix reviennent dans quelques minutes. On va parler, désolé, elle l'a dit Christine, on vous casse un peu l'ambiance, mais bon, c'est les chiffres, c'est la réalité. Est-ce que cette quatrième vague de Covid, est-ce que ce variant Delta va nous gâcher les vacances? À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Les vraies voix Sud Radio avec Morad Aitabouche, qui est vice-président du syndicat des agences de presse, qui est aussi le réalisateur de la série documentaire « Sale temps pour la planète ». C'est diffusé sur France 5 et c'est ce soir à 20h50 sur France 5.
Nous vous le conseillons.
Également. Fortement. Absolument. On est également avec Jean-Luc Touly, qui est le président du Front républicain d'intervention contre la corruption. Ça donne fric. Mais avec deux C.
Et je veux dire que Rémi André a une voix apaisante et chaleureuse que vraiment, c'est un bonheur de l'entendre.
Rémi André, de toute façon, c'est un bonheur depuis
même
des
quand
années
il annonce et
des
une années. Tempête, une tornade.
Vous seriez heureux d'entendre l'orage ou la foudre tomber grâce à Rémi André qu'on embrasse très fort. Absolument. Benjamin Glaise a aussi une belle voix, on peut le dire.
Vous pourriez
nous donner le sourire en annonçant la pluie
non, mais là,
ou pas.
Je fais mon jaloux là.
Vous êtes jaloux.
Enfin, vous avez été choisi tout à l'heure par Brigitte de temps en temps. Vous avez été choisi par l'auditrice.
Vous êtes le chouchou de ceux qui nous appellent. De celle qui nous appelle au 0826 300 300.
Mais Benjamin, c'est plus le physique que la voix.
Exactement.
C'est gentil.
Bon, bah, pourquoi pas. Dans ce cas-là, écoutez, utilisez-moi votre voix, alors on va faire ça comme ça. Dans une émission.
Et Jean-Marie, alors là, on n'en parle même pas.
N'en parlons pas, surtout
c'est
pas.
C'est complet.
Quoi qu'il en soit, au programme des vraies voix, dans quelques instants d'abord, on va tout vous expliquer comment Emmanuel Macron a pu se faire pirater ses téléphones et surtout, est-ce qu'il s'est vraiment fait pirater ses téléphones? Est-ce qu'il y a vraiment eu une grande oreille quelque part chez une société israélienne ou alors auprès du gouvernement marocain qui a pu écouter les messages d'Emmanuel Macron? On verra ça avec notre invité qui est l'un des meilleurs spécialistes de France en cybersécurité. Notre grand débat, vous avez entendu dans le journal de François Germain sur le variant Delta, la quatrième vague, elle est là, le pic épidémique en plus arrivera à la fin de l'été. Bref, est-ce que ce variant va nous gâcher nos vacances? On vous proposera un petit tour de France de la montée du coronavirus et des vacances. Ce sera à partir de 18h30, mais tout de suite on poursuit le tour de table de l'actualité.
Les vraies voix Sud Radio.
On poursuit le tour de table de l'actualité avec vous, Jean-Luc Touly. Vous le disiez, j'aimerais qu'on s'y attarde. On a beaucoup parlé de l'obligation vaccinale pour les personnels soignants en général. Ça veut dire aussi bien d'ailleurs les médecins que les aides-soignants. Ça peut concerner aussi le personnel paramédical, le personnel qui est au contact des pensionnaires en EHPAD. Vous avez vous-même de la famille en EHPAD et vous nous expliquez que le retard de vaccination avait de lourdes conséquences.
C'est tellement de retard que la direction, lorsqu'on leur pose des questions régulièrement, ne nous répond plus sur le pourcentage des personnes vaccinées. Et particulièrement, pas des infirmières, mais plutôt des aides-soignants. Et je ne veux pas leur jeter la pierre parce que c'est souvent du personnel d'Afrique subsaharienne, des femmes absolument formidables qui font 12 heures par jour,
avec
payées
un travail
10 heures d'ailleurs,
qui était
pour un salaire de misère, et qui sont très attachantes par rapport à la, à ma mère et aussi à plein de personnes âgées. Donc, ce n'est pas du tout ça qui est mis en compte. Mais il n'y a aucun effort de pédagogie de la part de la direction pour essayer de les convaincre. Il y a un médecin, mais qui est là une fois tous les trois jours, donc il fait ce qu'il peut aussi. Mais le résultat, si vous voulez, c'est que les familles ne peuvent pas venir voir leur, leur résident, dans la mesure où, effectivement, il y a toujours, souvent en tout cas, un membre du personnel non vacciné qui est déclaré positif. Et donc, dans ces cas-là, il y a 7 à 10 jours
d'isolement
pour tout le monde.
Ce qui veut dire que tous les pensionnaires de l'EHPAD, à chaque fois qu'un membre du personnel attrape le Covid et est dépisté positif, qu'il ait ou pas des symptômes, eh bien, tous les pensionnaires, comme votre mère, sont enfermés dans leur chambre.
Entre mars et juin, ça a été le cas.
C'est
donc
ça.
Pendant 3 mois, et évidemment, avec des pertes de poids, un refus maintenant pratiquement du lien social. Donc elles restent dans leur chambre, elles dorment souvent. Il n'y a pas assez de personnel pour l'animation, pour essayer
pas assez d'interaction sociale, ce qui est dramatique parfois pour des personnes dépendantes.
Donc la liberté de ces personnes qui ne veulent pas se faire vacciner, je peux l'entendre. Le problème, c'est que quand on est dans un EHPAD ou dans un établissement hospitalier, c'est quand même un
vous
très
êtes en
mauvais
contact de personnes très à risque, même si les pensionnaires sont tous vaccinés, quoi.
Ben oui.
Mais Jean-Luc a parfaitement raison, il parle de pédagogie. Le problème aujourd'hui dans les EHPAD, c'est que visiblement ces sociétés ont décidé de ne pas mettre de moyens pour effectivement ce temps qui est obligatoire pour aller vers les soignants. Si je reprends l'exemple que j'ai vécu personnellement à l'hôpital Pompidou, en médecine interne, où pendant 155 jours, j'ai suivi les malades et surtout les soignants, on a eu une réunion avec le professeur de médecine interne qui a réuni l'équipe de nuit des soignants, et il leur a dit texto, c'était au mois de janvier, posez-moi toutes les questions sur le vaccin, j'essaierai d'y répondre, parce qu'on n'a pas toutes les études, mais j'essaierai d'y répondre. Donc il y a eu un vrai effort pédagogie.
Voilà.
Mais il continue encore aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, parmi les soignants, il y avait les jeunes qui étaient les plus réticents, qui avaient probablement le plus de questions. Donc, il y avait des questions. Les questions, elles sont parfaitement légitimes. Aujourd'hui, on le sait, encore une fois, on est dans l'incertitude. Il n'y a pas assez de recul et donc forcément d'études. À partir du moment où on n'a pas assez d'études, il y a toujours ce que moi j'appelle le plus important, c'est le bénéfice-risque.
Le risque du Covid est trop grand, le risque du vaccin est moins grand.
Non, mais le bénéfice d'avoir le vaccin pour éviter d'avoir une forme grave est plus important que le risque qu'on fait courir aux gens qui se font vacciner.
Non, mais Mourad, je comprends très bien, mais quand on est dans l'hôpital ou dans un EHPAD...
Pour vous, c'est un devoir, il n'y a même pas de pédagogie.
C'est un devoir, parce qu'à ce moment-là, les personnes âgées, quoi, c'est des cobayes. Parce que moi, j'ai peur, parce que j'ai pas assez de recul, et j'entends ça. Mais donc, pour eux, il n'y a pas de problème, il faut que vous vacciniez, mais moi, je le fais pas.
97% des médecins sont vaccinés.
C'est vrai.
Aussi, parce que ça fait partie du serment d'Hippocrate. Voilà. Évidemment, on ne va pas provoquer et chez ces patients qu'on est censé soigner, évidemment, une maladie, une pathologie.
Et plus de 99% des pensionnaires des EHPAD, d'ailleurs, si je ne m'abuse. Heureusement, on l'a constaté avec la troisième vague, il y avait quasiment plus de décès en EHPAD par rapport à ce qu'on avait vécu.
Donc moi, je poserais même la question.
Bon, on l'a vu avec le après le discours de Macron, il y a eu quand même un déclic chez les soignants assez clair et net, qui ont décidé majoritairement de continuer leur beau travail, celui de se dédier à la santé physique, mentale, eh bien, des gens dont ils s'occupent. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose, d'autant que, oui, forcément, quand on fait ce métier-là, c'est normal de se faire vacciner. Ça va avec, en fait,
mais
finalement.
Faut quand même pas oublier, pardon Benjamin de vous couper, mais faut pas oublier quand même que c'est une prise de risque pour les soignants. Depuis le début, depuis la première vague, moi, j'ai vu, évidemment, le Covid. Je parle pas, évidemment, du vaccin, mais c'est une prise de risque. Pendant... des mois et des mois. Moi, j'ai vu des soignants qui prenaient dans leurs bras des gens, des patients qui avaient le Covid. Personne n'avait la moindre gratitude par rapport à ces gens. J'ai vu des familles les engueuler. Parce qu'ils ne faisaient jamais assez au téléphone, ils étaient là, ils éructaient.
Et les familles
c'était
n'avaient pas
terrible.
Le droit de voir leurs proches, et elles étaient
vrai,
d'autant plus inquiètes.
Sauf que, évidemment, moi j'ai vu le travail des infirmières, des infirmiers, des aides-soignants, des aides-soignantes. Leur rapport à leurs patients, ils étaient... le manque d'humanité qu'il y avait parce que les familles ne pouvaient pas entrer, c'est ces soignants-là qui apportaient cette humanité. Et j'ai vu des scènes extraordinaires. Donc aujourd'hui, stigmatiser tous les soignants alors qu'ils ont fait un travail et qu'ils continuent à faire un travail exceptionnel.
Vous vous y refusez, en tout cas.
Moi, je m'y refuse.
Au mois de janvier, j'entends, on est maintenant quand même 6-7 mois après que les vaccins ont commencé à produire leurs effets. On n'a pas vu de catastrophe arriver, parce que même s'il y a des complotistes qui nous écoutent, statistiquement, il y a eu quelques cas.
Pour l'instant, c'est
sur des millions, des dizaines de millions.
Donc aujourd'hui, la peur du vaccin pour vous n'est pas justifiée. Benjamin, le mot de la fin.
D'autant qu'on sait qu'a priori, sur les effets secondaires, ça arrive très tôt après la vaccination. Donc a priori, on les aurait vus. On ne dit pas qu'ils n'existent pas, parce que pour le coup, ils existent, mais on parlait de bénéfices-risques. Et effectivement, pour l'instant, ça va dans un sens clair et net.
Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, on va reparler du coronavirus. On est presque désolé d'en reparler, mais c'est vrai qu'on est en pleine quatrième vague. Ce sera notre grand débat. Le variant Delta va-t-il nous gâcher les vacances? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio, vous nous appelez 0826-300-300. Et dans un instant, tiens, on va se pencher sur la cybersécurité, ou plutôt la sécurité du téléphone portable d'Emmanuel Macron. A-t-il vraiment été piraté? Si oui, comment? Et tiens, et nous, monsieur et madame tout le monde, est-ce que ça aurait pu nous arriver? Quelles précautions prendre? On en parle tout de suite.
Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Les Vraies Voix Sud Radio avec Jean-Luc Touly, Morad Aïtabouche et Benjamin Glaize. Le téléphone ou les téléphones portables du président de la République Emmanuel Macron ont-ils vraiment été piratés par une société israélienne à l'aide d'un logiciel espion pour le compte d'une puissance étrangère et pourquoi pas une puissance amie et pourquoi pas le Maroc? C'est la question que se posent notamment 17 médias qui ont révélé, un consortium de 17 médias qui ont révélé cette information. On en parle tout de suite avec notre invité Loïc Guézot. Bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue sur Sud Radio, stratégiste cybersécurité en Europe du Sud pour la société Trend Micro. D'abord, ce logiciel Pegasus, de quel type de système parle-t-on, Loïc Guézot?
Alors en fait, on est ici sur un système informatique de type interception légale de communication. C'est donc un logiciel qui est vendu pour des interceptions sous contrôle de l'État et qui sont ici dans le cas d'un usage à l'étranger, donc avec accord d'exportation du ministère correspondant en Israël.
Donc ça, c'est une société privée. C'est peut-être une des premières fois que le grand public découvre qu'une entreprise privée, en l'occurrence israélienne, a les moyens dont on a toujours pensé que seuls des grands États ou des grandes puissances disposaient. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, certaines sociétés sont plus compétentes que certains services d'espionnage public?
C'est compliqué comme réponse, puisque les seuls clients de cette société privée sont a priori des organismes d'État dont la mission régalienne est d'assurer ces interceptions légales. Donc c'est plutôt une forme de sous-traitance et de partenariat technologique plutôt qu'un aveu de faiblesse et de manque de moyens techniques de la part des États.
Oui, mais l'espionnage, si je peux me permettre, alors même si c'est jamais assumé, l'espionnage est une compétence régalienne. Si on commence à sous-traiter ou à privatiser l'espionnage, est-ce que c'est un changement d'époque ou pas du tout?
Alors, c'est un changement d'époque d'un point de vue technologique. Donc, cette capacité régalienne d'espionnage va s'appuyer sur des moyens techniques qui sont aujourd'hui achetés à des sociétés privées, parce que c'est effectivement très compliqué, voire impossible, de développer ce qu'on appelle en interne ce type de logiciel. Mais ça fait de nombreuses années que de nombreux États dans le monde achètent des moyens techniques très avancés. On peut penser par exemple aux drones, au contrôle des drones, sans pour autant remettre en cause leur souveraineté. Sur le vol, sur le territoire national, etc., etc. Donc c'est plutôt une évolution liée à cette très forte évolution technique technologique qui va toucher jusque ces moyens d'espionnage qui sont maintenant très compliqués à développer.
Ce sera ma dernière question avant de donner la parole à nos vraies voix. Là, c'est le président français qui est suspecté d'avoir été espionné par une puissance étrangère via le logiciel d'une entreprise israélienne. Est-ce qu'il est arrivé que la France, avec d'autres... Est-ce qu'il a pu arriver ou est-ce qu'il pourrait arriver que la France, avec d'autres entreprises, fasse la même chose ?
Votre question, c'est est-ce que la France a déjà été...
Est-ce que la France a déjà fait la même chose à d'autres ? Est-ce qu'elle a déjà été... Est-ce qu'elle s'est déjà livrée aux mêmes actes ?
Il serait plutôt anormal et pour le coup un aveu de faiblesse en termes de souveraineté que la France ne soit pas capable de mener des actions d'espionnage lorsqu'elle l'estime nécessaire.
Benjamin Glaise.
Une question concernant ce téléphone. Alors, c'est l'un des téléphones d'Emmanuel Macron, si j'ai bien compris. Alors, il dispose de plusieurs téléphones. Il a notamment un téléphone sécurisé, je crois, qui est développé par Thales, qui l'utilise.
Théorème.
Voilà, qui l'utilise très peu. Pourquoi avoir ce genre de téléphone ? Pourquoi on ne peut pas l'utiliser dans beaucoup de cas et pourquoi Emmanuel Macron ne peut pas s'en servir justement de manière plus générale ?
Alors, ce téléphone, le modèle Théorème de Thales, est effectivement un téléphone ultra sécurisé qui n'existe qu'à quelques milliers d'exemplaires et qui est distribué au gouvernement et au ministère des Armées. Il possède des caractéristiques techniques qui garantissent une confidentialité des échanges, mais aussi beaucoup de limitations. En particulier, il n'est tout simplement pas connecté au réseau des 06 ou des 07 grand public. Donc, on ne peut pas appeler hors de ce réseau fermé de confiance et de sécurité. Donc ça, c'est déjà un premier gros inconvénient pour l'utiliser au quotidien, comme tout un chacun sur un téléphone avec une ergonomie beaucoup
ça
plus avancée.
Ça veut dire que le chef de l'État était obligé de se servir d'un téléphone normal s'il voulait continuer à échanger régulièrement avec monsieur et madame tout le monde, son oncle ou alors, je ne sais pas, son voisin.
Et il me semble que monsieur Benalla l'avait peut-être.
Par exemple, c'était un autre téléphone, mais ce n'était pas un téléphone. Loïc Guézot.
Oui, alors effectivement, il y a eu un théorème qui a été gardé par M. Benalla.
Bien vu, Loïc Guézot.
Après son départ.
Jean-Luc.
Maintenant, effectivement, si le président de la République souhaite téléphoner à tout le monde, il n'a pas le choix. Il est obligé de passer par un téléphone ouvert, mais ce téléphone ouvert peut être contrôlé par les services de sécurité. Mmh. C'est aussi un deuxième élément à prendre en compte.
Ça montre peut-être aussi la faiblesse aujourd'hui de la haute technologie française. Malheureusement, nous n'avons pas, nous, développé, un peu comme pour le vaccin.
Mais encore une fois, il n'est pas
accessible à tout le monde et encore, il ne peut pas appeler tout le monde. Donc, c'est un peu la vraie difficulté. Et on parlait tout à l'heure des drones aussi. On est très, très, très en retard sur les drones, sur cette technologie-là. On a pris des années, voire des décades de retard. Donc, c'est vrai que ce qui nous arrive aujourd'hui, comme un boomerang, c'est assez normal. J'ajoute quand même qu'il y a des journalistes aussi qui ont été écoutés. Et j'ajoute quand même que sous François Mitterrand, le scandale des écoutes de l'Élysée avait déjà démarré. C'est pas nouveau.
C'est vieux comme le monde.
Ce que disait notre intervenant, notre interlocuteur tout à l'heure, qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Ouais. C'est
ça
la
a toujours
guerre.
Été.
Il n'y a plus de guerre froide.
Dernière question, d'ailleurs, j'aimerais qu'il vous réponde, Loïc Guézot. Est-ce que la France est en retard dans ce domaine de la cybersécurité ou du cyberespionnage ?
Alors, si on prend l'exemple des téléphones, on a parlé du théorème de Thales, qui est ancien, mais il existe des nouveaux téléphones qui sont fournis par une autre société française qui s'appelle Aircom. Mm-hmm. Le produit s'appelle CryptoSmart et c'est un téléphone beaucoup plus comparable en termes d'ergonomie à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'évolution, il ne faut pas rester. Et c'est français.
Donc, ça
marche. Ça marche. Et en termes de cybersécurité au sens large, la France est classée dans le podium du top 5 au niveau mondial en termes de capacité. On est vraiment très bien placé. On n'a pas à rougir de nos capacités.
On est aussi des grandes oreilles pour les autres puissances. Et...
Probablement. Exactement. Et comme quoi, il n'y a pas de pire French basher que les Français eux-mêmes. Merci beaucoup, Loïc Guézot.
Je voudrais rajouter juste une chose, c'est que mon avocat, mon association anticorruption, Joseph Bréham, a été
l'avocat
concerné.
Du Front républicain d'intervention contre la corruption que vous présidez. Et Jean-Luc Touly est dans la liste des personnes dont le numéro...
Parce qu'il mène des actions pour les droits humains en Afrique.
Mais contre la corruption dans des pays autoritaires, effectivement.
Donc il n'y a pas de hasard.
Et on ne se fait pas que des amis dans ces conditions. Merci beaucoup Loïc Guézot d'être intervenu ce soir sur Sud Radio. Je le rappelle, vous êtes stratégiste cybersécurité pour l'Europe du Sud, pour la société Trend Micro. Merci à vous d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Restez avec nous sur Sud Radio. Le grand débat revient dans quelques instants. Vous nous appelez 0826 300 300, vous votez sur le Twitter de Sud Radio. La quatrième vague de coronavirus et le variant Delta vont-ils nous gâcher nos vacances d'été? À tout de suite.
Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Les vraies voix Sud Radio avec Morad Aïtabouche, Jean-Luc Touly et Benjamin Glaise. On en parlait, le gouvernement en parlait aussi, les cas de coronavirus qui continuent à augmenter de manière absolument exponentielle. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui nous annonce il y a quelques instants que la France vient de retrouver plus de 21 000 nouveaux cas de contamination au coronavirus. Si vous regardez les chiffres, il y a 10 jours, on n'en avait que 7 000. Ça a été multiplié par 3. C'est une courbe exponentielle, c'est du jamais vu. Question que nous vous posons, c'est le grand débat des vraies voix tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
Le débat est ouvert. La quatrième vague de coronavirus, le variant Delta, va-t-il nous gâcher les vacances? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio, vous nous appelez au 0826-300-300. Lorsqu'on regarde la carte de France, les départements littoraux, et notamment sur la Méditerranée et l'Atlantique, sont particulièrement touchés. C'est aussi ceux où il y a le plus de tourisme. Il n'y a pas que à la mer ou à l'océan. Il y a aussi les départements de montagne qui attirent beaucoup de vacanciers, et en particulier l'Ariège, où la préfecture a annoncé le port du masque obligatoire en extérieur dans 40 villes. Bonsoir à vous, Norbert Meller.
Bonsoir à Sud Radio, bonsoir aux auditeurs.
Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes le maire de Foix dans l'Ariège. Vous êtes aussi le président de l'association des maires et des élus de l'Ariège. Le coronavirus qui circule très activement.
Oui, la tendance n'est pas très réjouissante. Là, on est sur une mauvaise tendance.
On a un taux d'incidence, je vois en Ariège, de 159,7. Ça veut dire 150 cas positifs pour près de 100 000 habitants. Est-ce que vous vous y attendiez alors qu'on est en plein été et que l'été précédent avait été particulièrement calme?
Oui, si vous voulez, on ne regarde pas sur le long terme, mais on fait avec les statistiques que l'on a. Et là, on constate qu'il y a une dégradation nette de la situation et que si ça continue dans ce sens-là, on va devant des difficultés qui vont être importantes.
Donc vous êtes inquiet. La préfecture a annoncé le port du masque, rétabli plutôt le port du masque obligatoire dans 40 villes, dont la vôtre évidemment, fois dans l'Ariège. Comment le prennent les habitants?
La grande masse des habitants est très inquiète, non seulement pour le masque, mais davantage pour les conséquences que peut avoir l'amplification de l'épidémie. Les conséquences économiques en période de saison, mais pas seulement, également sur les commerces qui tournent toute l'année, et puis également sur toutes les activités sociales qui vont arriver très vite. Je pense à la rentrée scolaire, nous y sommes dans 6 semaines à peine, avec les écoles, avec les collèges, avec les 2 lycées, avec les centres de formation, et avec nos étudiants au centre universitaire de Foix, on en a un peu plus de 450. Si ça s'arrêtait, si on était obligé, si le gouvernement était obligé de stopper, ça aurait des conséquences sociales
Vous avez peur d'un reconfinement. Ce sera ma dernière question avant de donner la parole à Benjamin Glaise et nos autres vraies voix. Est-ce qu'on sait ce qui a ramené cette vague de coronavirus? Est-ce que c'est par exemple, pourquoi pas, sans incriminer personne, les vacanciers qui sont arrivés plus nombreux parce qu'il fait beau en Ariège et que c'est magnifique?
Non, ça c'est assez difficile à déterminer, donc on va laisser les statisticiens faire le travail qu'ils ont à faire, mais chez nous, ce que je voulais dire, c'est que l'immense majorité de nos concitoyens souhaitent que ça s'arrête et applique les mesures qui sont décidées par la préfète et que nous soutenons dans ce qu'elle a décidé hier et qu'elle a communiqué aujourd'hui par voie d'arrêté préfectoral.
C'est ça. Question pour vous, Norbert Meller, qui est, je le rappelle, maire de Foix dans l'Ariège, de Benjamin Glaise.
Bonjour monsieur le maire, une question pour savoir, parce qu'on parle de hausse du nombre de nouveaux cas, est-ce que vous constatez aussi une hausse des hospitalisations, des réanimations sur votre secteur globalement ces derniers jours?
Pas pour le moment de manière significative, mais ça va arriver très rapidement si on n'arrive pas à arrêter cette inflation galopante. Donc on est dans l'attente. Aujourd'hui, on a un cas un petit peu important au centre hospitalier du Val d'Ariège, entre Foix et Pamiers. Mais si ça continue et si on ne l'arrête pas, on va avoir des difficultés sérieuses au plan de la santé. Ça touche surtout les jeunes et la tranche d'âge entre 20 et 35 ans. Voilà. Et nous, on réouvre à partir de samedi. On prend le relais des centres de vaccination sur le centre culturel de Foix à partir de ce samedi et tous les samedis de manière régulière jusqu'au 28 août et avec une mobilisation des bénévoles parmi lesquels de très nombreux retraités pour assurer tout l'encadrement de ce type d'opérations et de dispositifs.
Morade Itabouche.
Monsieur le maire, la ville de Foix et le département de l'Ariège, vous avez suffisamment de places en réanimation dans le département ?
Alors pour le moment oui, mais il faut aussi prévoir les semaines qui viennent. C'est pour cette raison que toutes les mesures qui seront prises pour freiner, stopper et inverser la tendance iront de notre point de vue dans le bon sens. Donc pour le moment il n'y a pas de difficulté. J'étais avec la directrice du centre hospitalier cet après-midi pour d'autres raisons d'ailleurs que celle de la pandémie. Et pour le moment, les hospitaliers peuvent faire face.
Jean-Luc Touly.
Pardon ?
La parole à notre vraie voix, Jean-Luc Touly, qui est
c'est
avec
est-ce
nous.
Est-ce que, parce qu'on a dit que c'est pas forcément les vacanciers, mais est-ce que les jeunes, par exemple, de l'Ariège et de votre ville, par l'ouverture peut-être des boîtes de nuit, est-ce que ça a été notamment ça qui a provoqué une accélération ou pas spécialement ?
Non, un maire ne peut pas vous le dire. Et alors, à titre personnel, je pense que c'est plusieurs raisons qui vont dans ce sens-là et qu'il faut attendre pour affiner le diagnostic là-dessus. Ce dont on est à peu près sûr aujourd'hui, enfin, au moins ce en quoi on croit, c'est que les vaccinations seront de nature à freiner le développement de l'épidémie. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va et dans la protection également avec les décisions de Madame la préfète. Voilà, ce sont des choses très très simples qui sont soutenues par l'immense majorité de la population.
Benjamin.
On parlait dans certaines zones de centres de vaccination qui fermaient avec l'été, avec des médecins qui étaient plus disponibles notamment. Vous en êtes où, vous vous avez toujours autant de centres de vaccination? D'autres qui peuvent rouvrir peut-être prochainement?
Les pharmacies
C'est-à-dire, oui, quand il y en a un qui se repose un petit peu, nous on prend le relais. Ça a été le cas sur ma ville de Foix, où les pompiers, par exemple, sont appelés sur d'autres tâches. Ils assuraient un certain nombre de vaccinations. Et c'est un de nos médecins qui est à la fois conseiller municipal, le docteur Bory, qui a relancé l'opération. Bon, moi, je connais un petit peu ma ville. Je suis arrivé à récupérer une cinquantaine de bénévoles. Ensuite, le corps médical s'est occupé de trouver des soignants, infirmiers ou médecins pour être là. Et on sera présent tous les samedis pour des vaccinations ouverte et avec inscription bien sûr sur le site Doctolib.
Branle-bas de combat dans l'Ariège face à la recrudescence des cas de coronavirus. Merci à vous Norbert Meller d'être intervenu ce soir sur Sud Radio. Je le rappelle, vous êtes le maire de Foix dans l'Ariège, président de l'association des maires et des élus de l'Ariège. L'Ariège qui est un département où les principales villes voient le port du masque obligatoire revenir en extérieur pour juguler la recrudescence des cas de coronavirus avec un taux d'incidence qui est assez inquiétant, 259,7 cas pour 100 000 habitants. 0 826 300 300, on continue à vous poser la question, vous nous appelez pour répondre. Est-ce que vous avez peur que ce variant Delta vous gâche les vacances ou nous gâche les vacances? Et on continue notre tour de France direction un autre département du littoral méditerranéen, les Alpes-Maritimes, où la situation est un peu inquiétante. Diane Realini, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la gérante deux établissements à Nice, le Bar à Potes. On a tout de suite envie de venir, je vous assure.
Sympa.
Faut
pas se tromper.
Et l'Antre aussi. Le département des Alpes-Maritimes, qui est l'un des départements les plus touchés par cette recrudescence des cas de coronavirus. On était à l'instant dans l'Ariège avec un élu. Vous êtes une professionnelle, pas que du tourisme, aussi auprès des Niçois. Mais est-ce que vous craignez que cette remontée des cas vous gâche vos vacances?
Ah bah, ça va surtout me gâcher mon boulot que j'ai à peine repris. Donc ça m'attriste beaucoup. J'ai vraiment peur de la suite. Surtout s'ils annoncent une fermeture à 23h.
Ouais, c'est un des risques.
Ce qui m'étonne le plus, c'est que nous, on est des établissements formés pour ça. Et on fait attention au port du masque, on fait attention aux distanciations, on fait attention au gel hydroalcoolique. Alors que dans d'autres établissements recevant du public, ils ne le font pas. Donc voilà,
si les Niçois se contaminent, en tout cas pour vous, ce n'était pas dans vos établissements, dans vos deux établissements.
Moi, je suis plutôt une accueil de jeunes publics, c'est-à-dire jusqu'à 50 ans.
Ouais.
Donc on est la partie de la population qui craint le moins ce virus.
C'est vrai.
Donc je pense qu'on est quand même les moins importants dans ce souci qu'on se fait.
Pas les plus à risque en tout cas, c'est ce que vous dites.
Pas
en
les
revanche...
plus à risque, mais voilà. Donc moi je l'ai eu le Covid, je l'ai juste senti passer.
Ouais.
Et j'ai des amis qui l'ont eu aussi, qui l'ont juste senti passer.
Sauf
donc,
que...
voilà, je...
Le problème qu'il y a notamment dans les Alpes-Maritimes, chère Diane Realini, c'est que d'une part, le taux d'incidence, donc c'est le nombre de cas rapportés à 100 000 habitants, d'abord il est à 163, c'est encore plus fort qu'en Ariège. Il a été presque multiplié par 3 en une semaine. Et surtout, il atteint 602 chez les 20-29 ans dans les Alpes-Maritimes. Ça signifie en gros que les jeunes, même s'ils ont moins de risques d'avoir des cas graves de coronavirus, ils se contaminent énormément et en particulier dans les Alpes-Maritimes. D'où est-ce que ça vient d'après vous, Diane Realini?
Je pense du relâchement. Je pense, moi je refais la bise à tout le monde et j'accole tout le monde à nouveau. Mmh. Alors qu'avant, quand on avait le port du masque obligatoire, je faisais quand même plus attention.
Ouais.
J'imagine que ça fait partie de la rediffusion du virus. Tout le monde se refait la bise, tout le monde se refait les câlins. J'en vois beaucoup qui échangent leurs verres pour se faire goûter les cocktails. J'imagine que ça passe par là.
Toutes les habitudes qu'on avait avant la pandémie et qu'on s'était forcé
après,
à perdre.
Après, le port du masque, je ne pense pas que ce soit plus nécessaire. Parce que
Alors, je vais vous laisser vous rapprocher de votre téléphone, Diane Realini,
oui,
ou alors de la
fenêtre,
parce qu'on vous entendait un petit
non,
peu moins.
Non, je me demandais si le port du masque était quand même vraiment très nécessaire, parce qu'on l'enlève, on le remet
dans un bar,
avec les
en tout cas,
sales.
Oui.
Voilà.
C'est une vraie question.
Dans un établissement fermé, oui, bien sûr. Mais de le remettre en extérieur...
En terrasse, vous avez un doute sur la pertinence du dispositif.
Ouais.
Jean-Luc Toulis.
Dommage, parce que les sourires, c'est tellement beau.
Restez avec nous, Diane Realini. C'est vrai que les sourires nous ont manqué pendant très longtemps. Restez avec nous. Je vous rappelle, vous êtes gérante de deux établissements, des bars à Nice. Jean-Luc Toulis, question pour notre invité.
Je partage tout à fait le port du masque à l'extérieur.
Vous avez un doute.
Pas trop de monde. Là, je vais partir la semaine prochaine à La Rochelle. Enfin, il y a 45 villes... qui sont concernés par le port du masque à l'extérieur. Quand il y a énormément de gens dans un marché, effectivement, je le comprends, mais sinon, d'obliger de reporter le masque à l'extérieur, ça ne me semble pas... Mais dans une
Vous êtes d'accord avec notre invité, en tout
oui,
cas.
Oui, tout à fait.
Moradei Tabouche.
D'accord aussi, c'est-à-dire qu'il faut des mesures qui soient mesurées,
pragmatiques,
de bon sens. Maintenant, c'est vrai que dans l'Ariège, vous avez... pratiquement 90% de zones où vous pouvez vraiment vous balader en toute tranquillité. Dans les Alpes-Maritimes, c'est difficile d'échapper malheureusement à la côte.
Non,
mais l'arrière-pays est tellement beau, tellement exceptionnel, que j'invite vraiment les gens qui ne veulent pas porter le masque à aller plutôt dans les hauteurs et à l'arrière dans
Question à notre invité Diane Realini de Benjamin Glaise.
Bonsoir, déjà félicitations pour ce nom de bar, le bar à potes,
oui.
Ça me plaît beaucoup.
On arrive.
C'est très Diane. Sympa, voilà, c'est très sympa. Une question sur le pass sanitaire, tout simplement, comment vous l'avez accueilli, comment vous êtes organisé? J'imagine que vous êtes encore en plein dedans, là.
J'ai même pas commencé à m'organiser, à vrai dire.
Ah ouais?
Non, j'y crois même pas encore.
Vous y croyez
pas
encore?
J'y crois pas, parce qu'en plus, ma clientèle, j'ai fait des statistiques un peu, j'ai demandé, et la plupart de ma clientèle n'a pas envie de se faire vacciner. Même si ça va devenir obligatoire, ils vont être réticents. Donc ça veut dire encore une perte astronomique d'argent, de clients et de populations qui viennent dans mon bar, quoi.
Ça veut dire qu'en gros, c'est globalement des jeunes qui n'ont eu aucune des deux doses, de ce que j'entends, et qui n'ont pas l'intention, en fait, de se faire vacciner, même s'il y a l'occasion de revenir dans votre bar.
Oui, la
bars.
Semaine dernière, j'ai posé la question, et tous, ils veulent parce que ça leur plaît bien.
Donc, ils vous ont dit qu'ils ne voudraient plus venir.
Le virus.
Ils vous ont dit,
ils préféraient peut-être même... ne plus venir parce que ça les agace qu'on leur oblige de faire quelque chose.
C'est l'obligation qui énerve vos clients.
C'est l'obligation qui énerve, exactement.
Dans le bar à potes, moi je vous préconise quand même le monologue du vaccin. Il faut impérativement rappeler, parce qu'encore une fois, on n'a pas trouvé aujourd'hui de meilleure solution pour limiter la propagation. Donc il faut avoir ce discours, et moi je pense aussi que les restaurateurs, tous les professionnels aujourd'hui, doivent impérativement prendre le temps d'expliquer que, c'est pas que pour soi, c'est aussi pour les autres, c'est tellement important.
En tout cas, c'est pour essayer d'éviter de refermer. Vous aviez une question aussi
de
Jean-Luc
Toulis. Une question toute personnelle, parce que vous avez parlé que les câlins, c'était jusqu'à 50 ans, et voilà, je voulais savoir si au-delà de 50 ans, c'était encore possible.
Ça, c'est évidemment, mes enfants sont trop dans mon établissement.
Bon, on va changer ça.
On va essayer de changer ça. Merci à vous. Bon courage, Diane Realini.
Vous êtes tous les bienvenus, en tout cas.
On essaiera de revenir.
N'hésitez pas.
On vous souhaite de traverser cette quatrième vague sans encombre et de pouvoir continuer à travailler, mais pour ça, c'est vrai qu'il faut que les contaminations, elles elle baisse et il n'y a malheureusement pas 36 000 moyens pour faire en sorte que ces contaminations baissent. Quoi qu'il en soit, vous qui nous écoutez du côté des Alpes-Maritimes sur Sud Radio, du côté de Nice, notre invitée s'appelait Diane Réolini et elle est gérante de deux établissements, dont l'un qui s'appelle le Bar à Potes et c'est à Nice. 0826 300 300, ce variant Delta, ce fichu variant Delta et cette quatrième vague vont-ils nous gâcher nos vacances? Bernard nous appelle des Pyrénées-Orientales, département particulièrement concerné. Bonsoir à vous Bernard.
Oui, bonsoir à vous Sud Radio, à vos invités ainsi que les auditeurs. Voilà, moi écoutez, j'ai quelques petits points à soulever. Moi, vous savez, bon, c'est vrai que la région elle est, bon, entre guillemets, touchée. Moi, je suis plus inquiet davantage pour l'économie que par la propagation du virus. Ça, c'est le premier point. Ensuite, pas de contrôle aux frontières depuis le début. Il y a plein de gens qui viennent d'Espagne. C'est de très Catalogne. Aléatoire. Donc, ça veut dire que les mailles de la raquette, eh bien, elles sont larges. Ensuite, bon, tout se répand, une espèce de psychose, comme une traînée de poudre. Et moi, je suis un vacciné administratif. Voilà, j'ai un appartement en Espagne, sur la côte. Et bien, depuis 2 ans, pratiquement que ça dure, cette affaire, ben, j'y ai pas été.
Oui.
Donc, je me suis vacciné, j'ai reçu une première dose.
Oui.
Voilà, je pense que c'est pas ça qui va me sauver, parce qu'on parle déjà de troisième.
Oui.
Donc, je pense que c'est... Il y a derrière, à mon avis, il y a quand même la pause de...
Vous l'avez fait parce qu'il fallait le faire. En tout cas, vous l'avez fait parce qu'il fallait le faire et que ça vous compliquait la vie, mais vous n'y croyez pas vraiment, mais en tout cas, vous l'avez fait. Alors, vous soulevez aussi un point important, Bernard, on va y revenir tout de suite. Les Pyrénées-Orientales, on l'a beaucoup dit, très touchées par la recrudescence des cas de Covid, à la frontière de la Catalogne espagnole, Barcelone, qui est en pleine flambée, beaucoup plus dramatique, et depuis un mois, effectivement, la frontière était grande ouverte. C'est pas forcément cohérent, il a raison, Bernard. Morad Aitabouch.
Oui, il a parfaitement raison, mais encore une fois, c'est toujours difficile pour un gouvernement de prendre des décisions.
Enfin, pardon, je sais que ça a l'air facile. Vous voyez une ville à votre frontière où les cas sont par milliers, où on referme en catastrophe les discothèques, c'est pas si compliqué que ça de fermer la frontière.
À partir du moment où vous avez des gens responsables, vous ne franchissez pas la frontière parce que vous savez que de l'autre côté, vous avez hélas un risque d'attraper le coronavirus. Voilà, je pense qu'il ne faut pas tout attendre, des autorités. Il faut à un moment avoir du bon sens et avoir le sens des responsabilités. Maintenant, si à chaque fois on doit légiférer, on doit obliger, on doit etc. etc. Je pense que là, effectivement, on va rentrer dans une société un peu plus libertine. C'est ça qui a tout petit peu dommage.
Décision exceptionnelle.
Oui, mais encore une fois, c'est aussi notre responsabilité. Je veux dire, ne pas polluer, c'est notre responsabilité. On ne va pas systématiquement demander au gouvernement de nous faire une loi, ou aux législateurs de faire une loi pour nous interdire de jeter nos mégots dans la forêt avec le risque d'incendie, etc. Enfin, c'est du bon sens.
J'entends ce que vous dites, mais d'être trop permissif, c'est pas bon non plus. Je veux dire, on sait qu'effectivement, à Barcelone, il y a quand même énormément de gens touchés. Il faut quand même essayer de tenter que des personnes qui voudraient passer la frontière ne le passent pas, au moins momentanément.
Vous allez interdire aux habitants de Foix de quitter la ville ?
C'est pas la question.
La question, c'est qu'on peut pas interdire une ville où il y a effectivement un variant qui malheureusement est en train de se propager. On peut pas interdire, à la population de rester confinée à la maison. Sauf peut-être pour regarder France 5 ce soir dans les Pyrénées-Orientales.
Je pense qu'on en a beaucoup parlé
sur France 5.
Le mot de la fin, Benjamin Glaise.
Ne le loupez franchement parce que
le variant Delta va-t-il nous gâcher les vacances? Le mot de la fin avec Benjamin Glaise.
Non, je pense pour le coup pour dire sur cette question des frontières, c'est vraiment une épine dans le pied de chaque gouvernement, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de bonne solution. Parce que soit on ferme les frontières, et forcément on va avoir un tollé généralisé, plutôt localisé, soit on ne les ferme pas, et alors là, c'est ailleurs où ça va gueuler. Donc, on voit qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution.
Et il y a la présidentielle.
Et il y a la présidentielle.
Effectivement.
Restez avec nous, en tout cas, sur Sud Radio. Merci à vous tous qui nous avez appelés au 0826 300 300, en particulier vous, Bernard, qui nous appeliez des Pyrénées-Orientales. On espère que tout va bien se passer pour vous et on vous embrasse très fort. On vous posait cette question sur le Twitter de Sud Radio. Le variant Delta et la quatrième vague de coronavirus vont-ils nous gâcher les vacances? Vous restez raisonnablement optimiste puisque vous répondez non à 59% d'entre vous sur le Twitter de Sud Radio. Restez avec nous encore. on va vous parler d'un sport de plage, le handball, le beach hand, le handball de plage pour les femmes, où il y a un véritable scandale. Les joueuses professionnelles qui sont obligées de porter un bikini, sinon elles payent une amende. On voit ça avec le clin d'œil des Vrais Voix et Grâce Le Plat tout de suite.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Les Vraies Voix Sud Radio avec Morad Aitabouche, Jean-Luc Touly et Benjamin Glaise, ainsi que Grâce Le Plat, qui nous rejoint tout de suite pour le clin d'œil des Vraies Voix avec cette polémique rocambolesque qui concerne, Grâce Le Plat, le beach handball, où manifestement le bikini est obligatoire, Grâce.
Oui, c'est arrivé ce week-end pendant l'Euro de beach handball. L'équipe norvégienne affrontait l'Espagne. Et plutôt que de venir en bikini, comme le règlement l'impose, les joueuses ont mis un short. Alors, la commission de discipline de la Fédération européenne de handball n'a pas laissé passer ça. Vous le disiez, 1500 euros d'amende pour l'équipe. Ça fait à peu près 150 euros par joueuse. Karine Laborde, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes vous-même joueuse de beach handball au club Lacano OC Hand. Est-ce que vous comprenez cette amende?
Bah, elle est évidemment très stricte. C'est une sanction qui est plutôt sexiste, parce que le plus important, me semble-t-il, quand on joue à l'extérieur de surcroît, c'est d'avoir un équipement, une tenue avec laquelle les athlètes sont à l'aise.
Justement, selon le règlement du beach handball, les femmes doivent porter un bikini, je cite, ajusté et échancré, avec maximum 10 cm sur les côtés, alors que les hommes, eux, portent un short. Pourquoi ? Est-ce que c'est pratique de jouer en bikini ?
Pas vraiment, pas vraiment. Il y a des figures très acrobatiques. Hein, on est sur un sport qui se veut spectaculaire, pardon. Donc c'est vrai que de jouer avec un bikini, bon, on imagine bien que c'est pas forcément à l'aise. Quand on voit les tenues masculines qui sont beaucoup plus larges, avec des shorts qui arrivent à mi-cuisse, on voit qu'il y a une sacrée différence et les athlètes, les joueuses ne se sentent pas du tout à l'aise dans ce type de bikini. Elles ont l'impression d'être mise à nu, d'être scrutée.
Et pourtant, ça a toujours été comme ça, si je vous comprends bien, Karine Laborde.
Ça a toujours été comme ça.
Pourquoi ?
Mais c'est un sport qui est assez récent, je ne sais pas. Je pense que c'est un sport de plage qui, comme son nom l'indique, fait penser tout de suite à un maillot de bain. On peut penser qu'ils se sont dit qu'après deux petits matchs, on pouvait aller rapidement se rafraîchir dans l'eau. Non, je ne sais pas.
On peut se baigner en short aussi.
Mais Karine Laborde, pourquoi le beach volley, Jean-Luc, ça ne pose aucun problème au beach volley et que
Depuis 2012, les beach volleyeuses ne sont plus obligés de porter un bikini. C'est pas encore le cas pour les handballeuses, donc on espère que cette polémique va faire changer les choses. Hein. 2012, ça fait quand même bientôt 10 ans, donc
il est temps que ça bouge. Grâce Le Plat.
Oui.
Dans le règlement, il est écrit que les vêtements des athlètes contribuent à les aider à être encore plus performants, tout en restant cohérent avec l'image attractive que doit avoir le sport.
Parce
que la raison, c'est pas attirer les spectateurs, finalement.
Le mot attractif est quand même important dans la citation que vous avez choisie.
Non, mais c'est incroyable.
C'est assez incroyable, en effet.
Avec un règlement, on y revient, je cite ce que nous disait Grâce Le Plat à l'instant, qui exige en particulier que le bikini soit particulièrement échancré. En gros, vous n'avez pas l'impression, Karine Laborde, de servir juste à appâter avec votre corps et votre bikini les spectateurs et voir les candidats à ce sport?
C'est un peu ça, ça le problème.
Et ça va s'arrêter ?
Les Norvégiennes, je crois que oui, puisque la fédération européenne ne peut pas prendre la décision toute seule. Je pense que c'est l'international qui va prendre des décisions. Donc là, ils sont en train de réfléchir. C'est pas tout
avec
à fait.
Avec les hommes aussi, la même tenue.
Pourquoi pas.
Hein ? Mais c'est la fédération de handball qui réglemente votre sport ou pas du tout ?
Oui. Mais c'est international. Donc là, la Fédération européenne, je pense, va commencer à lancer l'alarme. Mais c'est un règlement qui ne peut être changé que d'un point de vue international.
Ça prendra du temps, mais on est à la période MeToo, balance ton port. On peut être raisonnablement optimiste pour votre combat. Merci à vous, Karine Laborde.
Et bravo aux Norvégiennes
aussi. Merci à vous.
Et bravo aux Norvégiennes pour leur coup de gueule. Merci, Karine Laborde. Je le rappelle, joueuse de beach handball au Lacano OC Hand, club de handball de Lacanau. Merci à vous, Grâce Leplat. On vous retrouve demain dans les Vraies Voix Sud Radio à partir de 17h en compagnie de Benjamin Glaise, journaliste Sud Radio.
Alors pour être attractif, je mettrai mon bikini demain. Voilà.
Oui, merci. Rappelez-nous de débrancher les caméras du studio. Nous serons également une autre fois dans quelques jours avec Morad Aitabouche, réalisateur de la série C'est le temps pour la planète,
qui
sera diffusée ce soir à 20h50 sur France 5 et qui vous fera découvrir les Pyrénées Orientales. Merci Jean-Luc Touly, président du Front
qui va ouvrir républicain. Une web radio dans sa ville, radiovissou.fr, et on aimerait un partenariat avec Sud Radio.
Eh bien, on essaiera, pourquoi pas, on en parlera. Merci à vous, Jean-Luc Touly, président du Front républicain d'intervention contre la corruption. Restez sur Sud Radio, les amis. Vous retrouvez Vincent Ferniaud dans quelques minutes, juste après les informations qui vous emmènent sur les routes de l'été.